With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Silence on joue, c'est la dernière de la saison. Bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Roof Rage, on va parler de Croutou et on va parler.
On va la faire, on n'est pas obligé.
On va en abuser même. Peut-être.
Et Totally Accurate Battleground, et puis on fout, et puis plein de choses parce que c'est la dernière donc de cette 11e saison, particulièrement mouvementée. Donc on reviendra un petit peu sur la saison. Rassurez-vous, pas de top des jeux de la saison au programme.
Ah, bah, ça, c'est.
Il avait une grande liste écrite avec des trucs soulignés et tout.
J'avais préparé un top 43.
C'est dommage. Mais c'est à Noël. C'est à Noël, les tops. On peut pas faire un top de top par an. Ça le fait pas. Voilà. Et donc, et puis le reste du programme, vous connaissez le comme tout ça. Tout ça, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, des croissants qui nous accueillent donc normalement pour la dernière fois, mais ils ont sauvé Silence on Joue, les sauveurs de Silence on Joue, c'est les croissants. Bonjour Corentin.
Hey.
On commence d'ailleurs avec toi Corentin. De quoi donc vas-tu donc nous parler?
Qu'est-ce qui est le plus excitant que Shenmue 3? Bah, Shenmue 1 et 2 peut-être, je sais pas. En tout cas, ils ont...
Shenmue 4
Shenmue 4, je sais pas. Bon, en tout cas, ils ont annoncé la date de sortie des remakes. Du remaster d'une certaine manière, ouais. HD, c'est prévu donc sur Xbox One, PC, PS4. Ça va coûter 35€ et donc ça sort, je crois que j'ai écrit tout sauf la date parce que je suis malin.
Fin août, je l'ai précommandé, j'attends, j'ai vu la
déjà
date tomber
direct, hein.
je suis un fan, ouais. En même temps, tu vois, je me dis, est-ce que ça va vraiment être mon jeu de l'été? Je sais pas en fait, parce
maintenant,
que
c'est fin août.
Oui, enfin, peu importe.
Enfin, moi, je dis ça,
en même temps, je l'attends parce que c'est une série mythique. En même temps, j'appréhende un peu de les relancer. Donc, j'avoue que je suis un peu indécis sur mon propre ressenti face à cette. Non, je vais essayer. Donc, évidemment, c'est tellement des souvenirs. Il faudrait que ça en reste. Mais...
C'est le 21 août. Voilà, je suis
21 août, c'est ça.
C'est important ce que tu as dit quand même. Peut-être qu'il faudrait que ça en reste.
Non, c'est des jeux vraiment piliers qui sont quand même des référents historiques.
Non, c'est clair.
C'était un vrai baf à l'époque.
À l'époque de la sortie en 99, c'était les jeux, je crois, qu'il y avait le plus gros, enfin le gros coût de production.
Ah oui, ça avait coûté cher.
Ça a peut-être même coûté.
Mais c'est resté très 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 longtemps les jeux les plus chers.
Ouais, puis en dehors du prix,
ils ont été giclés par un GTA.
Par les Rockstar,
mais
en dehors du prix et de l'ampleur de la tâche, c'était surtout des jeux révolutionnaires en termes de narration, de façon d'appréhender un univers ouvert ou simili ouvert, puis de nous laisser aussi un peu créer notre propre histoire, d'appréhender à notre manière les événements du jeu. Bon, voilà, il y avait une ambiance. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment adoré l'ambiance du jeu. Il y a 20 ans bientôt.
Je suis pas sûr qu'ils étaient jouables ou que ce soit d'autres, donc c'est peut-être pas plus mal de les rendre disponibles sur Steam.
Très très bonne nouvelle quand même.
Ouais,
ne serait-ce que, encore une fois, pour le côté historique culture générale du jeu vidéo,
c'est aussi en termes d'ergonomie, tout ça.
Non, mais c'est vraiment des jalons.
Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai regardé donc le trailer d'annonce de cette espèce de portage HD. Et c'est vrai que d'un point de vue graphisme, on n'était pas si loin de Shenmue 3 finalement, ce qui pose un peu problème.
En fait, il va y avoir une cohérence visuelle.
Ouais, il y a une cohérence visuelle qui est pas mal, mais c'est limite mieux animé dans Shenmue 1 et 2 que ce qu'on a vu dans Shenmue 3. Ouais. Bon, on verra. De toute façon, Shenmue 3, il est assez facile de taper dessus et pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie avant très longtemps, donc on va voir ce qui se passe.
Le graphisme ne fait pas tout dans ces jeux-là, encore une fois.
Exactement. Hein. Peut-être qu'on aura un jeu moche et mal animé, mais très bien écrit, très drôle, donc peut-être que voilà, il y a encore de l'espoir dans Shenmue 3. On verra. Sinon, voilà, il y a Electronic Arts qui était à une conférence jeux vidéo à Barcelone, dont j'ai oublié oublié le nom, tant pis, qui a annoncé, c'est Daryl Holt, qui est le vice-président et directeur des opérations chez eSports, qui a annoncé que la gamme 19 d'Electronic Arts précisera en fait les probabilités dans leur mode qu'on appelle Ultimate Team. En fait, vous savez, c'est ces modes de jeu qu'on a dans les jeux de sport d'eSports, justement, où en fait on va acheter des boosters
collectionner,
et on aura des joueurs avec des stats différentes, donc il y a de l'aléatoire. C'est vraiment le principe du loot box très classique.
Là, ils jouent à la transparence, du coup, c'est
du
ça
coup, alors ils annoncent que ils vont commencer à indiquer les probabilités. Donc il y a déjà quelques petites choses qu'on connaît, hein, quand on achète un booster, on sait combien de cartes joueurs on aura ou des trucs comme ça. Là ils vont dire, on va commencer à indiquer même les pourcentages et tout ça. Alors ils ont pas précisé jusqu'à quel niveau ils vont faire ces précisions là, mais ça montre bien en tout cas sur le point des loot box, il y a une pression qui se fait de manière générale, que ça vienne des législations des différents pays. Il y a différentes commissions d'enquête qui sont lancées dans, par exemple en Belgique ou en Chine, voilà, qui commencent à taper sur les doigts de certains développeurs, ou même d'un point de vue des plateformes. Voilà, il y a Apple qui, en fin d'année dernière, qui oblige les jeux qui sur leur plateforme, les développeurs, de préciser les pourcentages.
Ça paraît logique.
D'obtention, bien sûr. Donc voilà, et en plus Electronic Arts c'était particulièrement ciblé parce que Battlefront 2, ils avaient créé un vrai solé.
Ça a été le point. Voilà.
Moi, je vais vous dire, je suis pour l'interdiction brute.
Ah ouais, à ce moment-là,
ah ouais. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Non mais qu'on vire ces conneries. Non mais c'est vrai. Il y a un moment, faut arrêter, quoi.
Non
mais c'est vrai que ça biaise souvent.
Il y a des conditions. Il y a des types de jeux où le micro-paiement et l'achat in-game est justifié, où ça doit être coordonné. Après, sur tous les autres, les jeux d'action, les jeux de sport, et tout ça,
on fait vibrer une corde sensible chez les joueurs qui est pas forcément très.
Je pense que
C'est une saloperie. C'est basé sur des pulsions des joueurs qui sont difficilement contrôlables, hein, quand t'es passionné par un jeu et qu'on te propose pour 4,99€
d'améliorer quelque chose,
ton personnage, alors qu'il te faudrait 2 semaines de jeu pour y arriver toi-même tout seul. Ce sont des pulsions. Ils se basent sur des pulsions. C'est à proscrire, et je te foutrais une loi qui interdirait tout ça. Mais alors,
je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Erwan, parce qu'à titre personnel, moi non plus, j'aime pas ce genre de mécanique, et je suis pas quelqu'un qui est très addict à ce genre de choses. Et quand je vois ça de loin et je vois des amis qui jouent énormément, ou alors qui dépensent de l'argent, je connais assez peu de gens qui dépensent de l'argent en vrai.
Pour les joueurs très investis, tu peux comprendre le danger.
Le vrai problème de ça, c'est où tu mets la ligne. Parce que techniquement, les chapeaux dans TF2, c'est du loot box, techniquement, si tu vois ce que je veux dire.
Moi, j'ai interdit, moi.
Bah, alors voilà, c'est comme tu veux. À titre personnel, je sais pas comment tu interdis ça d'un point de vue de la loi.
Mais je sais
pas,
j'en sais rien.
À quel moment tu définis ça, c'est compliqué. Mais on est d'accord sur le fond, moi aussi je trouve ça nul. Le problème, c'est que vous votez avec votre porte-monnaie, les loulous, donc si ça rapporte de l'argent, ils continueront à le faire.
Le minimum, c'est une transparence en termes de messages.
Voilà. C'est
une bonne chose. Le strict minimum.
Et d'ailleurs, c'est rare de le dire, mais bravo à la Chine pour une fois qui ont été parmi les premiers à obliger les développeurs à mettre les pourcentages. Et c'est pour ça que notamment, je crois que c'était Overwatch qui précisait à quel point tu pouvais obtenir ton skin de May que tu voulais vraiment avoir. Bref. Donc voilà pour les news.
Qui reste uniquement cosmétique, hein, sur Overwatch.
C'est cosmétique, mais donc, sur plein de jeux c'est cosmétique. Ouais. Mais même quand c'est cosmétique, ça reste. Voilà, tu veux l'armure jolie, tu veux ta carte foil dans Hearthstone. Voilà, ça reste compliqué. Ça reste des pulsions. Et je suis d'accord avec Erwan. Ça joue sur les pulsions. Mais les free to play aussi à l'époque jouaient déjà sur des pulsions, même quand c'était pas forcément du gacha ou des choses comme ça.
Et nous, on a connu des jeux il y a très longtemps où tout était dans la cartouche et c'était à toi de tout débloquer en jouant. Voilà, et tu débloquais tout par toi-même. Voilà.
Patrick, des nouvelles de la Switch.
Oui, alors on a tous râlé, hein, sur ce plateau.
Pourquoi
on a râlé pendant le 3 sur le Nintendo Direct de Nintendo. On a râlé sur la place qui était accordée
à Smash Bros.
Les 25 minutes d'explication de chaque personnage, des prises, une sorte de lecture de la notice pendant 25 minutes. On a tous râlé. On était tous pas contents. La bourse elle-même a râlé, hein, après le 3. C'était pas très bon. Nintendo, ils ont un peu morflé.
Je crois qu'en quelques mois,
c'était pas très bon. En gros, la sortie de l'E3 était pas joyeuse. Et en revanche, bah, comme tu disais, hein, qui vote, bah, ce sont les clients, ce sont les acheteurs de jeux. Et là, on a un retour d'un des patrons de GameStop, donc grande chaîne américaine qui est propriétaire de Micromania Zing en France. par le VP vente Eric Bright, qui explique que lui il vend de la console, et lui il s'est rendu compte que pendant la semaine de l'E3, il a enregistré un x2, un doublement des ventes de Switch pendant l'E3.
C'est marrant
de voir la différence entre nous, nos critiques d'analystes, ou la bourse qui elle aussi suit, essaie de comprendre, d'analyser, de réagir aux annonces.
Non mais la bourse est conne, hein. Ça c'est
En tout cas, ce qui est marrant, c'est de voir la différence entre les analyses, les critiques, et puis derrière les ventes. C'est-à-dire que Smash Bros, ça enclenche de la vente de consoles avant même la sortie du jeu. C'est que ça amène de la vente. C'est ce que dit du coup Eric Bright. Il dit mais rien ne vaut les annonces Nintendo. Il dit c'est formel, on le reconnaît tout de suite. Il suffit d'une annonce comme ça pour que ça enclenche de la vente avant même la sortie d'un jeu. Lui, il note donc, il est quand même bien placé pour voir que Pokémon Let's Go, il y a aussi une grosse attente pour l'accessoire, le Pokémon, le Pokéball, qui est pareil. Il dit qu'il y a une grosse attente. Et il faut noter aussi que on a appris récemment que visiblement tous les jeux Nintendo de 2018 ne sont pas encore connus.
Oui, mais ça, on s'y attendait. Nintendo fait des Nintendo Direct tout le
sait,
temps.
Et on sait très bien que Nintendo l'a confirmé. Le 3 n'était pas leur pointe, n'était pas le pic de la communication pour eux. C'est peut-être aussi nos attentes, parce que nous, on sait que le 3, c'est
pas là
où
ils ont
fort,
dit qu'il allait avoir des annonces Japan Expo.
Pas forcément Japan, mais il y aura des choses tout au long de l'année. Puis Nintendo, il prend la parole quand il veut avec son Nintendo Direct. Ils ont aussi d'autres formats de communication. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura d'autres annonces sur la fin 2018.
Imagine un Animal Crossing avant fin 2018.
Je crois pas.
Je pense qu'on aurait on aura eu des choses, mais en tout cas,
t'auras peut-être ton Yoshi là, le Yoshi.
En tout cas, on ne sait pas tout, mais encore une fois, c'est intéressant de voir que les ventes sont là, c'est-à-dire qu'il y a, y a beau avoir des levées de boucliers ici même sur ce plateau. Hein, on n'était pas forcément content sur la place donnée à Smash Bros, mais en tout cas, ça marche. En tout cas, ce jeu va sûrement être un carton colossal, comme toujours dans la série Smash.
Surtout avec une Switch qui fonctionne, quoi. Enfin, avec une Switch qui est.
Et il suffit de 2-3 jeux en plus, le Pokémon ça s'aligne aussi, donc sur les mois qui viennent, et puis suffit d'un titre ou deux en plus, et ça va enchaîner.
Et en fait, Nintendo, souvent on oublie, mais ils ont leur agenda à eux, et ils s'arrêtent pas aux conférences. L'année dernière, Nintendo avait pas mal d'annonces, mais parce que ça tombait au moment où ils voulaient annoncer des choses.
Donc
en fait, le 3, c'est pas une variable, c'est une variable d'ajustement pour Nintendo. Eux, ils annoncent ça, et franchement, le Nintendo Direct qui a eu lieu avant le 3, il y avait eu pas mal d'annonces. Il y avait une auto-expansion qui avait été annoncée, il y a le Smash Bros, il a été annoncé au Nintendo Direct avant.
Tu
vois ce que je veux dire?
C'est pas complètement idiot, parce que pendant le 3, t'as un tel carambolage d'annonces de tous les constructeurs en même temps, des gros éditeurs. C'est pas idiot de décaler. Ouais. Et c'est aussi pour ça que finalement, le focus sur le Smash Bros, on le comprend tout à fait. Mm. C'était plutôt intelligent de leur part.
Après, c'est à double tranchant, parce qu'il y a un focus aussi qui est fait. Il y a l'attention du monde entier qui est focalisée sur le 3.
Et
où ça peut être intéressant de présenter des choses.
C'est déceptif pour nous. Voilà, quand on est en show sur le 3, qu'on suit ça, évidemment, et que là, t'as 25 minutes sur le Smash Bros. Un peu trop.
Après, allez, je ne crois pas à l'Animal Crossing pour la fin d'année. Alors ça peut arriver.
Je pense qu'on aura eu des choses.
Yoshi, on aura peut-être une petite annonce d'un petit jeu, je sais pas quoi.
Allez, j'enchaîne sur Nintendo, rien que pour citer une news avec Doug Bowser.
Il est génial. Lui
c'est le VP senior marketing chez Nintendo, rien que pour son nom me fait délirer. Je trouve ça incroyable.
C'est pourquoi il a été embauché en même temps.
C'est magnifique. Et un point intéressant, parce que la console a un peu plus d'un an maintenant. Elle était vendue comme une console hybride, comme la première vraie console hybride salon et portable. Et ce monsieur a donné un premier retour sur les modes d'utilisation. Et pour lui, aujourd'hui, donc à un peu plus d'un an maintenant, un an et demi d'activité de la console, on serait à 50-50 entre l'utilisation dockée écran, donc connecté à la télé, et portable. Donc aujourd'hui, on en serait là. Ce sont des chiffres qu'il aurait, lui, récupéré via les comptes des joueurs, donc qui ont un compte enregistré, qui se connectent, etc. Tout en précisant que certains titres présentent évidemment des différences, notamment par exemple à Just Dance, on y joue plutôt en docké pour y jouer face à la télé, et puis d'autres titres, les gros blockbusters, les Mario Kart, les Zelda, seraient vraiment 50-50 entre eux. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est vrai que moi, j'ai tendance à jouer en portable. C'est vrai que c'est la grande force de cette console, c'est que c'est vraiment la grande nouveauté pour moi, c'est ce qu'elle apporte, c'est ce côté de pouvoir avoir la même expérience. C'est vraiment nouveau, d'acheter un jeu une fois et de pouvoir y jouer à la fois en version salon et en portable. Et en tout cas, a priori, aujourd'hui, l'utilisation est 50-50. Donc le pari réussit dans ce sens-là pour Nintendo.
De toute façon, a priori, tout ce qui va être solo va plutôt être propice à être joué aussi en portable, alors tout ce qui va être multi, que ça soit du multijoueur online comme Splatoon, ou alors du coach gaming comme Overcooked par exemple, ça va plutôt être joué en docké, ce qui est logique, et du coup c'est pas si étonnant ces chiffres là
mais c'est vrai qu'un Zelda, je suis vraiment sur les deux, je suis vraiment
Moi je suis quasi 100% mobile. Moi,
je suis quasi 100% docké, comme quoi, tu vois.
Nous, on fait 55%. C'est ça, le seul défaut, c'est quand elle est dockée pour changer de cartouche, c'est pas forcément évident.
Ouais, mais c'est parce que t'es attaché aux cartouches, ça.
Voilà, ça, c'est. Bah ouais.
Alors, moi, je vais sortir juste une petite news parce que j'ai hésité à le mettre en critique jeu entre guillemets. Je voulais parler de Wolfenstein 2 version Switch donc qui est sorti. Alors j'y ai joué mais j'ai tellement pas grand chose à dire de plus de tout, que tout ce qu'on a raconté sur sur Wolfenstein The New Colossus que bah voilà, dire que la version Switch est sortie,
déjà rien à voir à en dire, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'ils ont réussi le pari
et ils
à
ont réussi et elle est très jouable, elle est très proche en tout cas au niveau des sensations et même au niveau de l'apparence des versions qu'on connaît.
Ils sont
tout
bons,
ça.
C'est pas Nick Button, c'est les gens qui avaient fait Doom. Oui. Ils sont bons, les mecs, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que le Wolfenstein New Colossus, il est costaud hein, sur les PS4 et Xbox. C'est un jeu quand même assez musclé. Je sais plus sur quel moteur il tourne, mais il est.
Simplifié. Hein,
visuellement, il arrache quand même.
Mais hein, c'est simplifié, mais c'est cohérent. Donc,
ils jouent toujours sur le flou, un petit peu, sur les effets de flou.
J'ai l'impression, mais en même temps, moi, je joue en mode mobile et pour le coup, voilà, sur l'écran, je ne ressens pas de perte de qualité. Ça se joue très bien, c'est même plus proche du jeu original que Doom Switch ne l'était. Doom Switch, j'ai trouvé qu'il y avait une façon un peu différente de jouer sur la Switch à Doom, même si c'était tout aussi nerveux que la version normale, enfin la version PC et console de salon. Mais là on est sur une expérience, vu qu'on est sur du FPS linéaire, couloir narratif, bah finalement on a quelque chose qui s'en rapproche vraiment, très intéressant,
une fois, une enfin,
plutôt belle performance de Panic Button. Voilà, le com des coms de la semaine dernière où nous parlions de Mario Tennis, de Cultist Simulator et de Captain Spirit, bien sûr.
Ah, pas de Cult Simulator, alors.
Oh, ça va, ça va. J'ai eu un gros flip. Hein. J'ai eu peur d'avoir dit Cult Simulator pendant tout podcast.
Mais non, Erwan, tu es parfait.
Mais bon, bref, je m'étais gouré dans la titraille, c'est pour ça. Bref, nous avons Killscore 2600 qui dit, concernant Mario Tennis, vivement qu'ils mettent en place un matchmaking par niveau, parce que là, c'est déprimant de se prendre roost sur roost contre des mecs à déjà plusieurs milliers de points d'XP.
Oui.
C'est un peu la base d'un jeu compétitif, me direz-vous, genre versus fighting, mais une fois encore, sur cet aspect, Nintendo est à la rue.
Mais non, c'est même pas vrai. Ils le font bien sur Splatoon. Pourquoi ils le font pas sur Mario Tennis ? Excusez-moi, mais...
Mais oui, mais c'est... voilà. Et autrement, nous avons Alan San qui dit, c'est la vraie question, est-ce que Captain Spirit est un vrai cadeau de Dontnod ou est-il une façon de faire du contrôle du damage control à cause de la préquelle qui était mauvaise mais pas faite par eux et histoire de nous redonner confiance en eux.
N'exagérons rien.
Moi qui avais été très déçu par le préquel, j'avoue que les 1h40 que j'ai passé sur ce Captain Spirit m'ont fait précommander Life is Strange 2.
Ce qui est sûr, c'est que ça réactive clairement l'attente sur la suite. Ça, on est d'accord.
Et c'est pas le seul à nous avoir dit ça, qu'il y a eu des préco préco Life is Strange 2 assez direct.
Qui ont enchaîné c'est clair que... Et
ça me rappelle les freeware. Tu te rappelles d'ailleurs Doom et Wolfenstein 3D à l'époque, elle avait sorti en freeware. En shareware, bien sûr. En shareware où il y avait les premiers...
C'était un extrait, c'était vraiment un morceau du jeu original.
Il y avait les premiers niveaux et puis on...
Tu mettais ta carte bleue dans la foulée parce que...
Voilà.
Il y a un auditeur, je crois, dans les forums qui soulève une hypothèse sur la fin de la démo que j'ai trouvé intéressante. On va pas spoiler, évidemment.
Il y a des spoilers. Ils préviennent quand il y a des spoilers.
Et pour venir là-dessus, je pense que avant tout c'est un moyen de se réapproprier l'espace médiatique alors qu'il n'y a pas de jeu qui sorte. Ça permet de parler de Life is Strange alors qu'il n'est pas sorti, alors qu'on parle d'aucun autre jeu. À la fin du jeu il y a un menu qui vous dit, voulez-vous précommander Life is Strange? C'est con, mais à mon avis il y a plein de gens qui font j'ai bien aimé, j'y vais, je précommande Life is Strange.
En dehors même du côté pragmatique de pré-vendre un jeu, moi j'y vois surtout un développement scénaristique un peu à part. C'est ça que je trouve intéressant. On avait eu ça un peu. Je sais que Ridley Scott s'était fait complètement allumer pour ça. Il avait fait ça avec Covenant, son dernier Alien, où il avait fait des mini-films qui étaient dispo sur le net avant de voir Covenant, qui expliquait des passages de films du film à venir. Alors il s'était fait pas mal allumer. Moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant d'avoir une écriture comme ça avec un film qui fonctionnait en soi, mais avec des composants scénaristiques qu'on pouvait aller piocher comme ça sur le net avant. Et je trouvais ça plutôt intéressant. intéressant, même si ça a été très critiqué. Là, je trouve aussi que c'est vraiment intéressant d'avoir cette partie aventure, ce scénario qui est autonome, qui existe par lui-même, qu'on retrouvera pas, qui n'est pas un extrait de la suite. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir cette bulle narrative de 2 heures qu'on pourra faire la saison 2 sans faire celle-ci. Et je trouve ça intéressant d'avoir des ajouts, des apports comme ça, des excroissances narratives.
Ah, mais c'est une excellente.
C'est un format vraiment intéressant qui se prête vraiment au côté aventure. On a parlé la semaine dernière, mais je trouve qu'il n'y a pas 36 genres qui peuvent vraiment se prêter à ça. Et le genre du jeu d'aventure avec ces apports narratifs comme ça d'une heure ou deux, c'est vraiment fait pour ça. Et bravo encore une fois à Dontnod, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un format intéressant qui réactive, évidemment, ça réactive l'attente. On n'a qu'une envie, c'est de voir la suite.
En fait, il faut garder à l'esprit que même si ce petit épisode est super cool, ça reste un élément marketing, mais voilà, il y a des éléments marketing qui sont super sympas, comme ce petit truc-là. Enfin, tout le monde peut avoir un avant-goût de la Fin Stretch, ou alors ceux qui n'y avaient pas joué peuvent savoir dans quoi ils vont mettre les pieds pour le 2. Ça n'a, à mon sens, que des effets positifs, à la fois pour le consommateur que pour Dontnod. Et n'oubliez pas que là, je vois pas quelle critique on peut avoir par rapport à ça, dans la mesure où Konami a fait pareil, mais ça coûtait 30 euros et ça s'appelait Grand Zeroes. Donc, voilà, on va arrêter de se plaindre.
C'est vrai. Et puis, complètement. Et puis, je trouve que le principe est génial. Et puis, encore une fois, c'est pas un extrait. C'est, contrairement au Shareware dont tu parlais, Doom, tu as le premier épisode, qui te donnait qu'une envie, c'était de suivre, mais tu avais un morceau, un extrait. Là, c'est pas ça du tout. Donc, encore une fois, je trouve que le format est vraiment intéressant.
Et bien, on va commencer à parler de jeux, et là on va se retrouver sur quoi? Sur du Super Smash Bros pixelisé avec des samouraïs et des ninjas, ou un truc dans le genre. Enfin, ça s'appelle Roof Rage. Elle est bien coolos, cette musique, cette bande-annonce de Roof Rage. Alors, Corentin, tu es un peu seul sur ce jeu, je dois avouer. Pas seul en absolu.
Nous sommes là.
sur nous trois.
Non, bien sûr. Moi, je cherchais des jeux, je devais en parler dans Silence on joue. Alors, j'ai pris une vraie après-midi, j'ai regardé un peu tout ce qui sortait sur Steam. Il y avait beaucoup de...
Tu fais une veille éditoriale.
J'ai fait une petite veille édito, tout ça. Voilà.
Mais surtout, sur Steam, il y a un peu les soldes en ce moment.
Il y a genre 10 jours, que ça. Et j'avais même fait un trade pour voir toutes les saloperies que j'ai pu trouver. Il y a vraiment tellement de saloperies qui sortent sur Steam. Mais bref.
Il y a un truc pour voir tout ce qu'on a dépensé. Non, il n'y a pas une option.
Si, il y a ça. Je te montrerai.
Non, mais j'ai pas.
Je veux pas savoir.
Et donc je suis tombé sur ce Roof Rage. En fait, je l'avais déjà vu, mais il y a longtemps, j'avais complètement oublié l'existence de ce jeu, parce qu'il avait gagné quelques prix, notamment d'excellence en multijoueur. Tout ça. Bref. Donc, Roof Rage, c'est développé par Early Mullen. Alors, Early Mullen, il est un peu tout seul. Il s'appelle Jérémy Klemk et il est en Corée. Il est un peu tout seul, il est français, et il s'est occupé de tout le jeu, donc d'un point de vue gameplay, d'un point de vue donc design bien sûr, d'un point de vue animation aussi et graphisme. Il a passé beaucoup de temps, en fait c'est un projet qui date de 2015 si je ne me trompe pas, et il a pris beaucoup de temps pour s'occuper et faire des belles animations pour son jeu. Donc comme tu l'as rappelé, est une espèce de mélange en réalité entre un Smash Bros, un Street Fighter, un espèce de mélange, parce que c'est à la fois un jeu donc d'arène, où on voit le stage vu de côté, c'est du pixel, ça pourrait rappeler Towerfall aussi à ce niveau-là, au niveau des graphismes. Mais le but du jeu, il y a plusieurs façons de gagner. Soit vous réussissez à expulser le personnage à l'aide de coups, c'est coup de stick plus normal ou coup de stick plus spécial. Soit vous arrivez à éjecter l'adversaire du stage, soit vous réussissez à lui enlever toute sa vie. Donc vraiment, il y a un mélange entre cet aspect-là, expulsion et barre de vie, qui est assez intéressante parce que les parties, on va pas expulser de plus en plus fort son personnage adverse. J'ai pas eu ce sentiment-là, alors peut-être que je m'en suis pas aperçu, mais dans les parties multijoueurs que j'ai pu faire, j'avais pas le sentiment que c'était le cas. Par contre, on peut faire ce qu'on appelle dans le jargon de Smash un Smash Meteor, c'est-à-dire expulser vers le bas un personnage pour qu'il tombe dans le vide. On peut le faire dans ce jeu-là, et ça peut être un moyen de tuer un personnage alors qu'il a encore plein de vie. Donc, on peut se servir quand même de cet aspect Smash Bros, même si en vrai, je pense que la plupart des morts que j'ai eues, en tout cas, c'était sur la fin de la barre de vie ou une personne qui n'avait plus de vie. Donc pour l'instant, le jeu est en en accès anticipé. Il est, il y a 8 personnages et 8 stages disponibles. Alors les stages ont a priori des événements aléatoires, un peu comme on peut avoir dans les Smash Bros. Mais j'ai pas eu le sentiment que c'était très important. Il y en a un, je crois qu'il y a un train qui passe en dessous. Je suis même pas sûr qu'il y a un véritable effet. En tout cas, je n'ai pas noté plus que ça. Mais voilà, surtout sur la forme des stages, on va beaucoup jouer sur... en fait, les affrontements vont se faire dans l'horizontalité, mais les déplacements vont se faire pas mal dans la verticalité aussi, dans la mesure où tous les personnages peuvent faire des sauts muraux à la Meat Boy un petit peu. Oui. C'est-à-dire que voilà, sur un seul mur, vous pouvez revenir sur le mur et faire des sauts à l'infini et escalader tout un mur comme ça. Donc en vrai, vous pouvez toujours revenir. Et évidemment, comme dans un Smash Bros, vos personnages auront un coup spécial qui vont leur faire faire une dernière impulsion vers le haut pour s'en sortir si jamais par exemple ils ont été expulsés vers le bas un peu violemment, en plus du double saut évidemment. On est toujours dans un type de jeu à la Smash Bros. Donc pour l'instant, le jeu est en early access, comme je disais. Il y a 8 personnages qui ont des coups assez variés. Alors on a évidemment le sabreur classique samouraï, on a une grosse madame avec un gros marteau qui va vous mettre des gros coups dans la tête. Vous avez un personnage plus fin, c'est une lance qui a une espèce de lance un peu longue et qui fait des coups, qui peut tirer des lasers avec sa lance. Il y a le punk, c'est un peu habituel dans les jeux de combat, mais tu as le punk qui lui va se battre avec sa batte de baseball, qui a son Iroquois vert sur la tête. Bon, c'est un personnage assez classique.
Bon cliché quand même. Ouais,
bon cliché. Alors, par contre, drôle, tu as Léon. C'est littéralement Léon du film Léon. Le Léon. Donc c'est Jean Reno, hein, avec ses petites lunettes de soleil rondes, et qui va utiliser que des armes à feu. C'est assez intéressant parce que le personnage est un peu différent. Il se démarque du reste du cast parce qu'il ne se bat jamais au corps à corps, ou quasiment jamais. Il peut mettre des coups de pied, mais c'est à peu près tout. Et tout le reste, c'est au flingue. Donc on a quand même des... chaque personnage a un éventail de coups assez varié. Donc comme je l'ai dit, il y a les coups normaux qui sont plus rapides, moins puissants, et les coups spéciaux qui sont plus lents, mais qui a priori font plus mal, ou ont une portée plus grande, ou permettent de faire des choses qu'on peut pas faire. Par exemple, Léon, il aura son grappin, il va grappiner un personnage, mais ça va aussi lui permettre de se grappiner.
Grappiner.
Ouais, grappiner. Bon. Grappiner. Okay. Il va pouvoir accrocher son grappin sur les rebords pour revenir, ou ce genre de choses. D'autres personnages vont carrément lancer des gros lasers avec leurs coups, ou faire des coups chargés qui vont envoyer très loin. Donc voilà. Alors, une fois que ça s'est dit, on peut se dire, bon, c'est un bon coach game, sympa, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, ça peut être le bordel, tout comme ça peut être le duel, ça peut être très très sympa. Il y a pas mal d'options, c'est vrai, c'est-à-dire on peut choisir le nombre de points de vie que tout le monde va avoir, donc ça permet de d'oser
paramétrer tout ça, ouais.
Paramétrer, on va dire, la durée des parties, ou en tout cas, on peut aussi mettre très peu
comme
de vie.
Comme Smash, non? Smash,
on peut mettre des handicaps, mais on peut pas choisir, genre, on peut mettre le pourcentage d'expulsion. C'est compliqué à gérer dans Smash.
Paramètres aussi.
Il y a des paramètres, c'est sûr. Mais donc, dans le cadre-là, on peut gérer en fait le nombre de points de vie général que les gens ont. Et par exemple, on pourrait mettre, je sais pas, 15 vies avec très peu de points de vie. Ou alors, vous pourrez mettre, je sais pas, deux vies, mais avec beaucoup de points de vie. Donc, les Smash Meteor, les Smash Meteor vont avoir beaucoup plus d'importance dans cela. Parce que même si t'es 500 points de vie encore disponibles, si tu te prends un Smash Meteor, t'es mort. Alors après, je vais quand même arriver sur ce qui marche pas encore, et je dis pas encore, parce que le jeu est en early access. À mon sens, les coups mettent tous 3 plombes à partir. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu où c'est censé être un petit peu rapide. On n'est pas dans un jeu de combat vraiment ultra sérieux. On est plus dans du Towerfall ou dans du Smash à plusieurs que dans du Street par exemple. Et du coup, comme tous les coups ont un temps de start-up, alors start-up c'est les images durant laquelle votre personnage va déclencher son animation, mais le coup n'est pas effectif, mais qui sont trop longs. On a l'impression qu'on charge ses coups, mais non, vous chargez pas vos coups en fait, c'est que les coups sont très longs à partir. Et dans l'ensemble, ça enlève beaucoup de dynamique, notamment quand on joue à plusieurs, où on se croise et on se tape jamais, parce que le temps de start-up est trop long, on n'arrive pas à se frapper. Et ça, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a des tweaks qui sont possibles à ce niveau-là. Les coups, en tout cas normaux, alors je peux comprendre pour les coups spéciaux qui sont puissants que ça mette du temps à partir, mais les coups normaux devraient partir beaucoup plus vite. Je comprends pas, ils sont pas si puissants.
Ça,
mais
c'est des petits réglages.
Et c'est mon avis, c'est encore une fois mon ressenti. Je voulais peut-être que j'attendais trop un party game et moins un jeu de combat sérieux où il faut doser, machin. Mais voilà, j'ai le sentiment que même dans un street, ça va plus vite. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est un peu dommage, d'autant que les pixels sont assez petits, les arènes sont assez grandes, donc si en plus quand on se croise on n'arrive pas à se frapper, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors par contre, les animations sont magnifiques, on sent qu'il y a eu un soin tout particulier aux animations, les personnages sont assez détaillés. Je suis pas très fan du chara-design, mais quand ils sont en pixels, c'est vraiment joli. Les musiques, t'en parlais, alors là on a entendu une musique qui est plutôt sympa. Dans l'ensemble, je les trouve de passable à moyenne, honnêtement. Je suis pas un grand fan des productions musicales qui ont été mises sur ce, mais elles sont pas honteuses non plus, donc on va dire qu'elles font le job sans plus. J'ai pas eu un un grand coup de cœur pour les musiques là. Et le vrai problème de ce jeu-là, il faut le dire, mais c'est inhérent et c'est pas de la faute de ce pauvre développeur, c'est qu'il y a personne sur les serveurs et que quand tu lances une partie en multijoueur, tu attends et il y a personne. Donc,
toi, tu y es déjà.
Oui, je vais arrêter d'y être maintenant. Je vais arrêter d'y être maintenant que j'ai un peu fait le tour. Mais il y a du potentiel quand même. Le jeu est en early access, donc il est tout à fait ouvert à des développements. Il y a un Discord qui a été fait et ça peut pallier le problème de l'absence de gens sur l'online. C'est qu'on va sur le Discord, on dit ouais, qui veut se battre, et on se bat quoi. et surtout, il y a le mode multi en local qui peut être joué jusqu'à 8 joueurs. C'est très sympa. Moi, de toute façon, plus il y a des coach games qui arrivent sur Steam, et plus je suis heureux, parce que voilà, avec les Steam Link, les choses comme ça, aujourd'hui, on peut vraiment se marrer à 4, et voire plus de joueurs autour d'une télé, tous les Jackbox, tout ça qui se crée. Moi, plus je vois ce genre de jeu arriver, plus je suis heureux, parce que ça permet des bonnes soirées, comme à l'époque. Et il n'y a pas que le...
Ah, tu reprends ton accent.
Ah oui, l'accent. Moi, c'est le plaisir.
Ça rejaillit régulièrement, Corentin.
Donc voilà, Roof Rage par Early Melon, c'est 15€, c'est un peu cher à mon sens pour ce que c'est pour l'instant. Il n'y a pas assez de contenu, donc je pense qu'il faudra peut-être attendre qu'il y ait plus de contenu ou plus de tweaks ou plus de modes de jeu. Par exemple, il n'y a pas de mode practice, il n'y a pas de mode solo. Peut-être si jamais un jour ça arrive, peut-être, s'il a le temps, j'espère. Je sais que c'est compliqué. En plus, apparemment, il est papa, donc c'est beaucoup de temps passé sur un jeu et sur son enfant, c'est compliqué. Mais je vous conseille d'attendre un petit peu. Mais si vous cherchez un compromis entre Towerfall et Smash et que vous êtes en attente de Smash, oh mon dieu, vous ne pouvez plus attendre, peut-être jeter un œil à ce. Roof Rage, voilà.
Merci Corentin. Finalement, c'est assez vendeur, même si c'est un peu il subit un peu la malédiction des jeux indés.
C'est compliqué.
Il
hein.
y a un petit côté wait and see quand même.
En même temps, il n'y aurait pas eu le online, on lui aurait reproché. Donc c'est compliqué, c'est du perdant-perdant pour ce pauvre monsieur. Il n'y a personne sur le online, on lui reproche, mais pas de online, on lui reproche. Donc c'est bien de l'avoir mis. Maintenant, c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est toujours pareil. Ouais, bien sûr.
Et ben c'est le moment tant attendu. Enfin, on va pouvoir. On va pouvoir parler de Croutou. The Croutou, j'en peux plus. Depuis le temps que j'attends ce jeu, rien que pour le nom. Ouais, c'est l'annonce du nom.
Qu'est-ce qui t'a hypé dans The Croutou?
Le titre.
Que ça. Non. Et puis voilà, il y avait quand même la promesse multivéhicule, pas mal de choses à façon Ubi avec ce gigantesque world qu'on connaît avec The Crew, qui permettait déjà de se balader dans une représentation un peu minimale des États-Unis en termes de distance, mais enfin c'était quand même un pays et on avait la possibilité comme ça de la traverser, de retrouver les paysages un peu emblématiques des États-Unis d'une seule traite en voiture, sans temps de chargement et tout ça en multijoueur, très très orienté multijoueur. Donc grosse annonce qui date déjà d'il y a plus d'un an, c'était E3 2017.
C'est possible.
Ouais, c'est bien possible. C'était E3 2017.
Je crois que c'est l'E3, ouais, c'est ça.
Oui. Non, mais je suis à peu près sûr.
C'est un jeu très typé américain, donc c'est vrai que ça s'y prête.
Et donc, Croutou, t'y as joué, Patrick. Ouais, j'y ai joué aussi. Voilà.
Croisé en ligne par score interposé hier soir.
Entre la 14e et la 16e avenue.
Moi, je débarque un petit peu. C'est vrai que j'ai pas trop creusé le premier. Enfin, très franchement, je vais être transparent. Je connaissais pas.
J'avais un peu lancé le premier, mais
le titre était beaucoup moins vendeur, faut dire.
The Crew, ouais, on avait moins accroché. Donc moi, je débarque un petit peu, je découvre un petit peu l'univers du jeu avec cette suite. On rappelle, donc production des Lyonnais de Ivory Tower. Donc c'est un studio indépendant qui a été racheté par Ubisoft il y a quelques temps maintenant, après le lancement de The Crew. Alors c'est assez simple, la promesse, comme tu disais, c'est une production Ubisoft. Ubisoft, on les connaît pour leur capacité à créer des mondes ouverts, ça ils savent très bien le de faire. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un jeu de voiture, mais pas seulement, de course multi-véhicules en monde ouvert vaste, avec toute l'Amérique du Nord reconstituée, les États-Unis reconstitués en monde ouvert. Ce qui m'a marqué tout de suite quand on lance le jeu, c'est le côté un peu sapin de Noël de la carte. Mais ça, c'est typique aussi des jeux Ubisoft, c'est-à-dire c'est ces cartes avec des milliards de trucs à l'écran qui sautillent, des objectifs qui s'allument, va faire ça, ça clignote de partout. Moi, ça m'a rappelé ce type qu'on avait fait il y a
une ambiance commune
ce côté monde ouvert où on va zoomer sur des disciplines comme ça qui sont sur une énorme carte et on va hop se lancer dans différentes disciplines et épreuves. Alors moi je suis plutôt client de ce genre de truc. Moi, c'est vrai que la méthode Ubi, moi j'aime bien ce côté monde ouvert. Certains n'aiment pas ça. Il y a des joueurs qui sont assez perméables à ce côté carte avec plein de trucs qui s'allument. Moi, je suis plutôt client. J'ai toujours un peu cette fringale d'aller chercher les trucs, d'aller débloquer. Ça me donne envie. Enfin, voilà, tous les voyants lumineux, ça marche chez moi. Ce sont des stimuli qui me donnent envie d'aller cliquer, d'aller chercher, parcourir la carte. Alors, pour situer le gameplay, on est vraiment sur du pur jeu d'arcade. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris clair et net de pur jeu d'arcade. Sur la conduite, on est vraiment sur un truc assez à l'ancienne, finalement, sur un vrai ressenti de jeu d'arcade, vraiment.
C'est purement arcade. Il faut pas chercher de la simulation, soyons clairs. Il faut pas chercher de la simulation.
Non, il vaut mieux pas.
Mais je trouve, en tout cas, ça dépend des véhicules. On va dire que moi, je trouve que l'avion est plutôt bien géré en arcade.
Ah oui, après,
il y a
des nuances. Bien sûr qu'il y a des nuances.
La moto, je trouve que c'est assez cata.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est mon gros bémol.
Alors, c'est arcade toujours, mais c'est.
Mais on sent que le cœur du jeu, pour moi, ça reste la voiture.
Et la voiture, je la trouve lourde. Je la trouve assez lourde pour un modèle arcade. C'est-à-dire un modèle arcade, ouais. On va chercher du burn-out, hein, forcément, pour ceux qui s'en souviennent. On va chercher du Forza Horizon ou des choses comme ça. Je trouve la conduite.
Je trouve que ça dépend aussi des véhicules que tu penses. T'as plein de voitures différentes, évidemment. T'as différents types de bagnoles. Moi, je suis d'accord sur le côté arcade marche bien. Je trouve que le parti pris est là et finalement c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on a on gère. En fait, ce jeu il est très accessible. C'est-à-dire que tu le lances, tu pars dans une course directe, t'as pas de prise de tête, tu pilotes ton voiture, ta caisse, ton bolide, très rapidement. Il y a pas de courbe d'apprentissage finalement, c'est que t'es balancé, ça va très très vite, c'est facile à prendre en main. Sur la lourdeur des véhicules, moi je trouve pas forcément. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est le côté de ce que j'aime pas, sur la physique, c'est le côté quand tu tapes sur un bloc, quelque chose de dur, ta voiture qui se bloque tout de suite, qui s'arrête d'un coup, ce qui est vraiment dommage parce qu'on est sur un environnement plutôt réaliste, on sent qu'il y a un effort fait sur le visuel, tient vraiment bien la route, les véhicules sont bien modélisés, le décor est vraiment bien foutu, t'as un vrai côté monde ouvert, t'as des modes où tu peux, en monde comme ça, où tu pars à l'exploration, tu traces sur des kilomètres, tout ça est plutôt cohérent, il y a une sorte de... Alors, on est sur un jeu d'arcade, mais quand même avec un souci de réalisme environnemental et de comportement des voitures. C'est plutôt bien dosé, je trouve, ce côté arcade, mais qui prend en compte un certain réalisme dans les décors. Et puis, il y a ce côté des voitures qui bloquent contre un obstacle d'un seul coup, et ça, c'est...
Oui, parce que les voitures, il n'y a pas de déformation.
Il n'y a pas de déformation, elles se salissent un petit peu. Il y a un petit effet de saliture, mais oui, il n'y a pas de dommage.
Il n'y a pas d'explosion de voiture, alors que, en fait, moi, je me suis pris des murs.
Et moi aussi.
Franchement, ça m'a choqué de ne pas exploser.
Alors, il y a certains obstacles qui explosent, que tu traverses, et puis tu vas te taper contre un mur et la voiture s'arrête. Bam, d'un coup. Ça c'est un peu old school. Je trouve que c'est dommage parce qu'on est dans un jeu qui est plutôt dans l'air du temps. Je trouve qu'il y a une envie de justement d'avoir un monde ouvert, d'avoir des courses comme ça où tu drop in, tu drop out, tu sors comme tu veux. Il y a l'effet aussi qui au début peut paraître rattraper un peu l'air du temps avec les followers qu'on va essayer de capter lors des courses. Mais finalement ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il y a une sorte de monnaie dans le jeu qui te motive à continuer, etc. Donc on est sur un jeu qui essaie vraiment d'être dans l'air du temps, de capter des choses. Et puis voilà ce côté assez rustique de certains éléments de gameplay. Alors comme tu disais sur les voitures, moi c'est ce côté bloqué contre un obstacle où ta voiture pile d'un seul coup, c'est fait vraiment à old school. Voilà, c'est pas forcément, je trouve, à la hauteur du reste. Et effectivement, bah, les deux roues, c'est waouh, sur les motocross, sur les, enfin, ça marche pas du tout. Les avions, je trouve que ça passe plutôt bien. On s'y fait, je trouve que pareil, on nous apprend assez vite. Hein, bah, t'as des figures de style, etc. Parce qu'on, il y a plein d'épreuves différentes. Hein, il y a des épreuves de drift, des épreuves de figures.
Ça, j'ai eu du mal aussi. Hein.
Alors
que j'adore les trucs de drift un peu dans des jeux un peu créé pour, là j'ai pas du tout réussi. Je sais pas, c'est encore une fois, c'est
moi, ce que j'ai préféré. Moi, c'est le côté triathlon de certaines épreuves où tu vas enchaîner les trois. Alors, tu peux commencer en voiture, tu vas faire une partie de la piste en caisse avec des effets. Moi, j'ai eu des courses de nuit ou à la nuit tombante avec des vrais effets visuels stressants où tu as du mal à bien voir ton tracé, où vraiment il faut vraiment gérer ces trajectoires. Hop, tu vas enchaîner sur ta voiture se transforme en bateau quand tu arrives sur l'eau, et hop, tu vas finir en avion, et ça, je trouve qu'il y a vraiment, il y a une intensité sur ces courses-là où ça marche vraiment bien, même si les courses en bateau ont un timing un peu différent, je trouve. On n'a pas les mêmes sensations que sur... c'est peut-être la difficulté du jeu aussi, c'est de marier de combiner beaucoup de choses complètement différentes avec des ressentis fondamentalement distincts entre une voiture, un bateau, un avion. Finalement, je trouve que le grand écart entre la voiture et l'avion marche bien parce qu'on passe sur des sensations complètement différentes. C'est vrai que le bateau, j'étais moins...
Bah, le bateau, il est plus compliqué parce qu'il y a un gameplay, alors que c'est pas évident parce que les courses de bateau, bah, c'est pas des courses de virages serrés, c'est des courses de virages larges, c'est des courses...
T'appuies sur le nitro.
La
gestion du nitro, j'ai eu un peu de mal aussi, c'est que tu passes ton temps à appuyer, à attendre qu'il recharge. Enfin, je trouve qu'il y a le nitro, peut-être qu'on peut l'optimiser, hein,
les courses de bateau, t'as juste l'impression que c'est des optimisations de trajectoire, et en même temps, et c'est pas bien expliqué, je sais que a priori, il y a des gestions de l'atterrissage dans l'eau quand tu sautes, et de la gestion des vagues créées par tes concurrents qui sont devant. Si tu prends bien les vagues de tes concurrents et tout ça, ça a l'air...
Mais
vu que c'est pas expliqué, c'est un petit peu compliqué.
Pourtant, on te parle beaucoup entre les niveaux.
Déjà, on me tutoie. Et
a priori, le premier était beaucoup plus scénarisé, je crois, avec une histoire de trafic, etc. Là, il n'y a plus du tout ça. Par contre, on est dans cette ambiance de réseaux sociaux, il faut se faire une réputation. Et du coup, c'est vrai qu'on en a pas mal. On a pas mal de types qui viennent nous parler. Vas-y, il faut que tu fasses cette course, etc.
Non, mais ils sont casse-couilles, les gens qui te parlent, c'est horrible.
Et puis, il y a des passages en FPS un peu où on se balade dans les, sur les stands, etc., qui ne sont pas forcément les plus dynamiques. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Mais ce n'est pas les plus dynamiques.
Ah oui, non, mais ça ne sert à rien.
C'est pas le cœur du jeu. Moi, le fun, il vient vraiment des courses, et je trouve qu'on a vraiment des ressentis. La carte où je t'ai battu hier soir ton score, c'est vrai que je me suis vraiment amusé à dire tiens, je vais lui prendre ces 2-3 secondes. Et c'est vrai que t'as vraiment des maps où tu sens que ça a été bien travaillé. Là, vraiment, tu sens que ça se joue à quelques petites choses, et c'est là que le jeu, tu sens qu'il y a quelque chose qui marche bien à ce niveau-là. Tu vois, je trouve, sur le côté connecté, je pense que quand tu vois tes potes en ligne, etc., ça marche bien. Moi, j'ai vraiment un problème avec le nitro, c'est tout bête, hein, mais c'est quand même important sur un jeu comme ça, et la gestion du nitro, j'ai un peu de mal avec la vue cockpit, parce que moi je suis très vue cockpit dans ces jeux-là, et là c'est pas du tout. Il y en a une, mais on sent que le jeu est pas fait pour, parce que tu perds énormément en visibilité, et c'est un peu dommage. Mais je trouve que c'est pas forcément c'est vraiment fait pour une vue arcade extérieure.
Pour revenir sur les sensations de conduite, donc on a déjà dit que les deux roues c'était à proscrire. Sur les courses, moi je suis assez fan des courses en extérieur. Alors il y a parce que en fait il y a un type de course où tu vois juste le checkpoint, et grosso modo tu fais comme tu veux pour arriver jusqu'au checkpoint suivant.
Donc tu fais du off-road,
soit tu suis les indications. Alors le off-road, sachant que on l'a dit les arbres jouent ont le même système que les murs, hein, donc on se prend un arbre, donc on est un peu perdu, mais on a une gestion comme ça un peu des raccourcis, et là je trouve que la physique est plutôt pas mal
sur les côtés. Il y a une vraie tension.
Parce que c'est des voitures avec des gros amortisseurs. En tout cas, je ressentais bien le terrain et ma façon de jouer sur ces modes-là. Sur les modes street machin truc, je suis moins fan. C'est je sais pas. Je suis moins fan de la conduite, alors que j'aime bien. J'aime vraiment bien les
jeux, sur les tracés urbains, comme à Las Vegas.
Sur les tracés urbains. Après, c'est compliqué en tout cas pour moi avec ma maîtrise, on va dire, des différents paramètres de qu'est-ce qui fait un bon jeu de course arcade ou pas.
Je pense qu'on est à peu près pareil, Erwan.
Non, mais c'est assez bizarre parce qu'on part d'une alchimie comme ça qu'on ne comprend pas. On ne connaît pas vraiment sur quels ingrédients il faut jouer ou pas. On peut juste dire, nous, en tant que joueurs, notre ressenti, il est moyen plus ou il est très bon. Je sais qu'aujourd'hui, il y a Forza Horizon. C'est un peu sur ce modèle de jeu, c'est un peu la référence. Et je trouve que même s'il y a des bonnes intentions, il y a plein de bonnes intentions, il y a plein de choses qui sont, plutôt rigolées.
Les petites quêtes annexes sont pas mal quand on se met en mode open world, c'est-à-dire qu'on lâche une épreuve ou qu'on vient de la finir. On peut continuer sa route dans son véhicule.
C'est ça, il y a une sorte de persistance du monde.
Et choisir à volonté son véhicule parmi les trois, entre l'avion, le bateau
et
jongler comme ça.
Il y a des quêtes de photos et des choses comme ça qui sont plus... Mais c'est toujours le problème sur ces jeux qui sont finalement sur une niche bien particulière, qui est le jeu de course arcade en open world. Et je suis désolé, ils ont quand même un concurrent un peu violent, massif.
Sur une console.
Ouais, sur une des deux, sur une des deux consoles. Mais on a Forza Horizon. On a Forza Horizon qui est là et qui fait vraiment très très bien le boulot. Je dis pas que The Crew...
Non, parce qu'il est vraiment agréable. Moi, j'ai déjà passé quelques heures dessus, mine de rien. C'est un goût frattant, mais comme tous les open world, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre son temps et on aime bien aussi s'accaparer la carte. Comme toujours, c'est toujours la carte, le personnage principal de ces jeux-là. Et on retrouve ça aussi. C'est vraiment la carte qu'on a envie de aller repérer des endroits qu'on connaît via des films ou des voyages qu'on a pu faire. Et ça, je trouve qu'il y a... moi, j'ai cette appétence de la géographie dans ces jeux Ubisoft. C'est qu'on a envie de découvrir le monde, on a envie de le parcourir. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ces petites missions secondaires, toutes bêtes, mais aller prendre une photo, un machin. Ça marche. Enfin, je trouve que après,
comme la Statue de la Liberté qui est tournée vers Manhattan.
Ouais, ça m'a dérangé. Je sais pas d'où ça vient. On en parlait.
Juste sur les États-Unis, je me suis tapé un peu la traversée des États-Unis. J'ai pris l'avion parce que ça va à 250 km/h de moyenne. Il y a un peu le Midwest est un peu chiant. C'est un peu chiant.
Il y a moins d'activité.
C'est un peu chiant. Mississippi, tu vois le Mississippi et la forêt autour, c'est un peu chiant.
Je crois que c'était dans la définition du lieu un petit peu, d'un point de vue.
Voilà,
c'était en phase.
Tu vois, il y a le Mont Rushmore qui est au nord, on a Las Vegas, Los Angeles à l'ouest, on a New York, Washington à l'est. Là, ici, il y a la Floride aussi un petit peu. Le reste, c'est chiant.
Oui,
voilà.
C'est plat, quoi. Je pense que c'est un jeu qui est bourré de contenu. C'est vrai qu'on le lance, ça se voit, la carte est pleine. Il faut faire le tri. Je pense que tout n'est pas bon. Je pense que tout va aussi évoluer. Enfin, on connaît les méthodes du BIS, c'est des jeux services qui vont évoluer sur le temps. Je pense que le jeu est là pour un moment. Il y a des contenus qui vont arriver, Il faudra peut-être aussi le suivre sur le temps. En tout cas,
ça va dépendre des ventes, je pense, parce que genre Steep, il l'avait pas mal suivi, en tout cas au début.
Il y avait eu des grosses mises à jour sur les JO, je crois. Il y avait eu.
Il rajoutait des domaines au fur et à mesure.
C'est ça. Donc le jeu a eu une vie derrière, donc je pense que
si je fais la comparaison avec Steep, c'est vrai que dans la ludothèque Ubisoft, c'est le jeu qui semble assez évident en comparaison. Je le trouve finalement beaucoup moins original évidemment que Steep, mais plus abouti à sa sortie.
Totalement. Steep, moi je regrettais juste une espèce, comment dire, c'était pas bâclé évidemment, mais c'était imprécis un peu partout et c'était un peu embêtant.
Et là il y a un studio aussi qui a un sacré CV, c'est les gens qui ont fait Test Drive Unlimited, qui savent. Enfin voilà, ils ont tout un CV de gestion comme ça, de mondes ouverts, connectés, de courses.
Non, Croutou, il est un petit peu fini. Il est quand même, il est totalement correct. J'ai pas été confronté à des choses qui m'ont révolté. Je me suis même amusé sur la côté voltige. Je trouve qu'il est vraiment assez bien fait. Tu sais, la première fois où on te dit, maintenant tu fais un ras du sol à l'envers.
Ah oui, c'est bon ça.
Et là tu fais what? et tu dois, tu fais des figures et on t'impose un peu des trucs à faire. Et il y a des moments où il y a des belles sensations et je trouve ça assez agréable. Après, de là, moi, en tout cas, de ma place et de ma de ma connaissance générale de ce genre de jeu, est-ce que je le conseille ou pas? Je sais même pas dire.
Je pense que c'est pour les fans d'arcade qui ont envie de toucher un peu à tout, même si je pense qu'au fil de la partie,
Est-ce que tu t'adresses à quelqu'un quand tu dis ça? Est-ce qu'il y a des fans d'arcade qui ont envie de toucher un peu à tout?
Tous les véhicules.
Est-ce que à qui ça s'adresse? Moi, c'est ma grande question. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Ouais. Ça s'adresse pas aux fans de jeux de bagnole, machin. Bah, est-ce que ça s'adresse? Enfin, je sais pas à qui ça s'adresse.
En fait, l'avantage de Forza, c'est que vraiment, que tu sois un newbie de la voiture comme moi, par exemple, tu te marres parce qu'il y a un mode facile. Enfin, il y a un mode conduite à arcade à la manette, quoi. Et moi, je sais que j'avais filé la manette à un pote qui, lui, par contre, s'y connaissait vraiment en jeu de voiture. Il me dit, ah, super, je me mets en mode pro et machin. Regarde, je vais faire des trucs au frein à main. Et je regardais, je disais, waouh, il fait vraiment des trucs.
Et là, à vous écouter,
j'ai pas joué à Croutou, mais à vous écouter, j'ai pas l'impression que ça soit possible à Croutou. Hein.
Non, après, on n'est pas sur. Voilà, et comme tu disais, on est sur aussi. On est un peu sur une overdose de modernité avec du loot, avec des achats in-game.
Qui fonctionnent, hein, c'est pas des mécaniques forcément. Tu as ton reward quand tu finis ta carte.
Allez,
tu
ça va défendre les loot box. Allez.
Ah non, on n'est pas sur.
À un moment, j'avais débloqué par l'expérience, j'avais débloqué un nouveau mode de jeu. Il fallait que j'achète une nouvelle voiture.
Ouais.
J'avais pas les sous, et bah directement pour 4,99€, tu peux acheter de la virtual money.
Ouais, c'est pas le but, hein, le bus qui va arriver in-game.
C'est pète couille, mais c'est pas grave.
Ça existe depuis.
Non, mais je sais, je vais pas me remettre à gueuler sur des choses qui sont maintenant hyper standard dans le jeu vidéo.
Je suis pas un spécialiste des jeux de bagnole non plus, tu vois. Donc finalement, moi ça me convient bien ce gameplay très arcade où je peux toucher un peu à tout, même si finalement, au bout d'un moment, tu vas plus faire forcément beaucoup de deux roues parce que j'ai pas trop kiffé non plus. Je vais plutôt me spécialiser sur les jeux sur la bagnole, peut-être sur l'avion, parce que ça m'éclate. Donc je pense qu'au fil de la partie, tu vas aussi te spécialiser dans
Je suis pas un grand connaisseur des jeux de bagnole, mais je sais que je suis capable de tomber dans les très bons jeux de bagnole. Tu vois, je suis tombé dans
Forza, mais ça tu l'as pas sur PS4 par exemple.
Dans Burnout à l'époque, dans des jeux de rallye, je sais même plus comment ils s'appelaient, Dirt.
Dirt,
j'étais vraiment tombé dedans. Enfin voilà, je sais que je peux tomber quand le jeu est fait pour moi.
C'est un autre message.
J'ai pas l'impression qu'il est fait pour moi.
C'est pas le même positionnement, je pense.
Ah oui, mais le problème c'est qu'il est positionné pour qui alors? Et c'est ça ma question. Il est positionné pour qui, Croutou? Je ne sais pas.
Peut-être pour un public vraiment très très occasionnel.
Ou alors, les gens qui aiment les titres de jeux cool.
Non, mais c'est vrai. Croutou est un titre formidable.
Voilà, Croutou. voilà, donc c'était Croutou d'Ubisoft sur PC et console. Voilà, c'était. Avant de finir cette émission et de parler donc de ce Totally Accurate Battleground, je voulais faire quand même. On va faire un point saison 11. On fait un point saison 11, les amis. Faisons un point saison 11. Ouais. Rappelez quand même que c'est une saison qui a été très très chaotique dans Silence on Joue. On rappelle, on a commencé par un déménagement, donc on est allé tourner chez No Life. On tournait dans les locaux de Libération rue de Châteaudun avant, mais en prévision d'un déménagement, voilà, est-ce qu'on a commencé l'année chez No Life ou on a commencé l'année directement chez No Life ou on a déménagé
la saison chez No Life.
Voilà, il fallait s'habituer à ce nouveau cadre, alors bon, qui était un peu sombre parce que Alex Pilote ne faisait ce qu'il pouvait avec les décors, donc on s'est un peu retrouvé dans le noir, en tout cas pour ceux qui nous suivent en vidéo. On n'avait toujours pas le son qu'on a aujourd'hui, donc on n'avait pas toujours retrouvé le son un peu radio, un peu de qualité qu'on a aujourd'hui. Donc ça a été comme ça un peu un semestre un peu bizarre. Après, il y a eu la fin d'année, début d'année qui a été un peu compliqué à gérer au niveau de l'émission, hein. Il y a eu beaucoup d'émissions qui ont sauté. Moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais avec les déménagements, avec Libédon qui a déménagé en novembre, il y avait des choses d'organisation qui étaient un peu compliquées. On a recommencé, on a repris, notamment grâce à vous deux, hein, qui vous êtes investis un peu dans Silence on Joue. Et donc, on a repris une régularité. Et là, bim, qu'est-ce qui se passe? Au revoir, No Life. Donc un peu le drame de milieu de la saison, le drame du printemps, hein, donc No Life qui s'arrête après plus de 10 ans d'existence. Pas seulement pour avec une soirée d'adieu absolument dingo, il y avait plein de choses à dire, mais on va pas revenir sur cet événement dramatique. Et puis donc on a atterri ici au Croissant, qui nous ont un peu sauvé la mise pour cette fin de saison. Je sais pas, il y a quand même plus d'une dizaine d'émissions qu'on a enregistrées ici.
Je voudrais faire le compte, mais une petite
dizaine d'émissions.
On en a fait toutes les semaines, donc
quasiment. Et donc c'était belle. j'étais bien. Et puis on a retrouvé l'audio, hein, on a retrouvé l'audio pur. Et ce son, quand même, qui fait plaisir à, plaisir à entendre.
On
c'est
voit
vrai
plus
que...
nos têtes.
Et on voit plus nos têtes. J'ai pu mettre le même t-shirt deux semaines d'affilée.
C'est
c'était
vrai.
Hyper cool.
Ça commence à sentir un petit peu dans le
Ça va, j'ai lavé entre temps. C'est bon, c'est bon. Voilà, et donc, et puis, bah voilà, donc on a cette annonce aussi qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je ne sais plus que la saison prochaine, on se retrouvera avec Binge. On enregistrera chez eux. Donc, plein de choses dans cette 11e saison de Science on Joue. La plus grande nouvelle, c'est qu'on est arrivé au bout, quand même, parce qu'avec tout ça, c'était pas gagné hein, dès le départ. Ouais. Et puis, on est fin prêt et motivé pour entamer cette 12e saison. Au niveau des jeux vidéo, on va pas faire, hein, j'ai dit, il n'y a pas de top
du jeu. Range ton papier, Corentin.
Mais enfin, je l'ai déjà mangé, mon papier.
Ton top 1, c'était quoi?
Il était très bon. Bah, mon top 1, ça va être mon jeu à emmener cet été, donc j'en parle tout à l'heure.
Mais quand même, en fait, c'était compliqué de pas revenir à la fin de cette saison 2017-2018 sur le truc quand même le plus hallucinant, en tout cas en plus de, je sais pas, ça fait combien de temps que je bosse sur le jeu vidéo, ça fait 18 ans, ouais voilà, ça fait 17-18 ans que je bosse sur le sujet. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu l'équivalent de Fortnite. Donc Fortnite qui est arrivé au début de la saison, hein, il est arrivé en septembre 2017, et un jeu comme ça qui a eu un impact aussi fort sur le jeu vidéo, sur la pop culture, sur l'image du jeu vidéo à l'extérieur, sur les jeunes, sur les ados, sur les streamers, sur ça a eu un impact monumental.
Ouais, c'est clair.
Sauf sur les chroniqueurs de Science on Joue.
Bah moi j'ose plus parler de phénomène machin parce qu'on avait déjà dit ça de PUBG l'année dernière. Là on dit ça de Fortnite. Alors je me demande quel sera notre jeu phénomène de l'année prochaine.
Mais est-ce qu'il y en aura un? Je sais. Alors, est-ce que c'est un truc unique?
On met la barre de plus en plus haute. Pareil que toi, Erwan, ça me paraît compliqué de dépasser Fortnite. Si demain voilà, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que je pense Fortnite est le on va dire le bout du chemin de la standardisation d'un élément de culture vidéoludique qui vraiment touche tout. C'est-à-dire au bout d'un moment c'est toujours le même exemple que je sors, mais il est vrai, quand t'as des joueurs de foot qui dans les matchs font des célébrations Fortnite après avoir marqué un but, c'est qu'au bout d'un moment ton jeu il a percé à un moment donné, tu vois.
Ah bah ouais.
Donc là c'est formidable, et je pense que c'est aussi coucou Sony, c'est aussi grâce à l'aspect crossplay qui, je pense, a beaucoup marché. Alors pas forcément entre les consoles, mais entre le mobile et les autres plateformes. Ouais. Parce que là, franchement, quand les gamins ils peuvent jouer à Fortnite grosso modo sous la table en cours, ouais, c'est qu'ils peuvent jouer tout le temps. Ça devient un élément de la vie des jeunes qui peut être vraiment prégnant pour plein de communautés et tout ça. Et donc oui, ça devient un élément de culture qui est énorme parce que il peut être présent à chaque instant de ta vie. Et donc oui, c'est aussi pour ça que Fortnite a énormément marché. D'abord de son lancement, je pense que c'est surtout grâce à la PS4 qu'il a décollé, et ensuite la fin du couronnement, la fin de l'explosion du phénomène, c'est quand il arrive sur mobile, et là, alors là tout le monde y jouait, et y compris d'ailleurs la gente féminine qui joue énormément à Fortnite, notamment sur mobile, et c'est un des jeux les plus rassembleurs que je connaisse, quoi.
Ouais. Et c'est propre aux jeux vidéo, c'est aussi pour ça que le jeu vidéo est toujours fascinant, peut-être plus que jamais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une industrie qui a quelques décennies maintenant, mais qui arrive à faire jaillir comme ça des phénomènes. On avait eu Pokémon Go maintenant quelques années. Fortnite, est-ce qu'il y a d'autres industries culturelles ou artistiques qui arrivent à avoir des raz-de-marée comme ça qu'on ne voit pas forcément venir?
League of Legends, hein, finalement, c'est aussi l'héritier de League of Legends.
C'est la force. Je trouve que le jeu vidéo, il est fascinant pour ça, c'est cette capacité à faire émerger des nouveautés comme ça qui redéploient complètement la façon, comme tu disais, il y a un vrai impact aujourd'hui sur la façon de penser un jeu vidéo. C'est-à-dire je pense que beaucoup de créateurs ont aussi intégré le succès de Fortnite pour penser les jeux de demain. Enfin, il y a une vraie aura aujourd'hui, mais il y en aura une aussi demain, parce que c'est un jeu qui aura marqué la façon de concevoir et de pratiquer le jeu vidéo. Et enfin, je sais pas s'il y a un équivalent dans d'autres industries. Enfin, en tout cas, le jeu vidéo, il a vraiment cette capacité à faire émerger comme ça des vrais phénomènes et qu'on voit pas forcément venir. Hein. Fortnite, il était là bien avant, il a évolué, il s'est transformé. Il y a eu PlayerUnknown. Enfin, c'est vrai que ce phénomène du Battle Royale, il est fascinant parce que c'est et ça vient du bas, ça vient des joueurs. C'est ça qui est génial, que ça vient. C'est pas ça a pas été une décision d'un éditeur, c'est venu des joueurs. joueurs. C'est vraiment les joueurs qu'on fait monter, comme tu disais, les streamers, c'est venu des joueurs et qui ont vraiment porté le phénomène. Et c'est ça qui rend ça vraiment, vraiment incroyable. Et c'est fascinant à observer aujourd'hui, vraiment.
Après, je dois avouer que je suis moyen enchanté par le succès de Fortnite. Enfin, à titre personnel, je serais content qu'un jeu fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue purement critique, et ce que représente Fortnite, ça reste un free-to-play. Et à titre personnel, j'aime pas trop les free-to-play parce que ça rémunère pas bien les développeurs. Ou en tout cas, c'est pas un modèle économique qui est très franc, quoi.
Hyper sain.
Voilà, c'est pas hyper sain pour le jeu vidéo. À titre personnel, les graphismes de Fortnite, c'est ce qu'on voit depuis des années. Voilà, c'est du Warcraft.
Après, Et puis c'était aussi un prérequis pour le rendre adaptable partout et facilement.
Évidemment, ça favorise aussi les effets de mode. Je veux dire, il n'invente rien, Fortnite. Il fait mieux, peut-être, ou en tout cas, il rend plus accessible quelque chose qui n'était pas forcément accessible avec PlayerUnknown's Battleground, qui n'est pas accessible. Qui, à titre personnel, j'aime bien PlayerUnknown's Battleground pour son aspect très pur dans la façon de jouer. J'aime pas Fortnite parce que ça mélange plein de genres et que je m'y retrouve pas forcément et que j'ai l'impression de passer à côté de tout un pan de jeu que je n'arrive pas à comprendre. Mais je peux comprendre aussi que les gens préfèrent Fortnite pour son aspect beaucoup plus sympa, cartoon, voilà. Mais dans l'ensemble,
Qu'il représente le jeu vidéo en général, tu veux dire?
Fortnite, c'est un jeu vidéo tiède, tu vois ce que je veux dire? C'est pas mauvais à titre personnel. Je vois ce jeu, je le regarde avec une petite bienveillance, mais dans l'ensemble, je trouve pas que c'est d'une grave créativité.
Très sincèrement, mon gros point d'interrogation sur Fortnite, mais c'est un vrai point d'interrogation et je n'ai pas du tout la réponse, c'est je ne sais pas si c'est un effet de mode ou pas. C'est-à-dire dans le sens où je ne sais pas si dans un an, si dans deux ans, on sait par exemple que des jeux comme League of Legends...
Ça fait déjà un petit moment.
Ça fait septembre 2017.
C'est beaucoup quand même.
Ouais, enfin, alors, septembre 2017, explosion en décembre 2017, décembre-janvier.
Deux mois de progression.
Explosion dépassement de PUBG en décembre-janvier 2017 et perçage dans la pop culture avec les joueurs de basket, de foot, etc. en mars-avril.
Comme dit Corentin, je pense qu'une fois que tu as percé en dehors du jeu vidéo, que tu deviens comme une icône, t'as réussi ton truc aussi. C'est-à-dire que tu commences à poser des jalons pour devenir vraiment une icône pop.
Ma grande question, mais j'en sais rien. Ça se trouve, ça se trouve, c'est pas du tout un effet de mode et ça va être un jeu qui va durer façon League of Legends qui dure depuis 8 ans, 9 ans, enfin depuis des années.
Qui s'est inscrit dans le paysage du jeu vidéo.
Je ne sais pas si Fortnite va s'installer dans la durée. Et il y a une telle explosion, ça ressemble limite à la courbe du Bitcoin, si tu veux, Fortnite. Ouais. Donc forcément, à un moment, t'attends la chute, quoi. Corentin l'a dit la semaine dernière sur Pokémon Go, il peut y avoir une chute et il peut y avoir une stabilisation hyper haute en termes de nombre de joueurs.
Et puis mine de rien, je disais que ça n'est des joueurs de la base, mais l'éditeur est important aussi. Et puis là, on sent qu'il y a un soin aussi des qui travaille le jeu, qui l'alimente.
Le coût incroyable d'Epic, c'était quand même un gros studio déjà.
C'est le plus beau hold-up.
C'est énorme.
Ils ont fait sauter la caisse là,
c'est clair.
Mieux pour eux. Et puis il faut toujours se réjouir aussi des succès,
bien sûr,
et surtout des succès populaires comme celui-là.
Bien sûr.
Nous, peut-être qu'on est un petit peu prout-prout élitisto-parisien à jouer à des jeux indépendants à 10€. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est c'est pareil pour GTA, c'est pareil pour Pokémon, c'est pareil pour plein d'autres jeux. C'est il faut pas que ces jeux-là éclipsent d'autres jeux, la création de manière générale, parce que tout simplement, c'est aussi les petites créations qui permettent à un jeu vidéo de rester bouillonnant, vivant. Sinon, on aura toujours les mêmes types de jeux. Les Fortnite sont importants, la petite scène aussi. Et je pense que, et j'espère que les Fortnite vont aussi donner envie à toute une génération de joueurs
de devenir
surtout de créer aussi des jeux vidéo,
mais aussi découvrir tout le spectre du jeu vidéo, parce que c'est ça que le terme jeu vidéo,
j'y crois pas trop, mais oui, j'espère aussi.
Alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Il faut voir que Fortnite est un skill based, c'est-à-dire que c'est basé sur du skill, c'est pas basé sur de la chance, c'est pas basé sur du hasard, c'est pas basé sur la répétition, sur le temps, sur les trucs comme ça. C'est basé sur le skill, et c'est quand même super rare de voir un jeu populaire à ce point-là basé autant sur sur le skill de jeu. Et c'est pour ça que je trouve, en tout cas,
oh,
qu'il y a
LOL et tout ça. Enfin, pas à ce niveau-là, certes.
Non, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Et en termes d'ouverture et tout ça. Et parce que bah, Pokémon Go, c'était passé sur le temps de jeu. Enfin, c'était sur le fait de marcher. Et tout
bah,
ça.
C'est sûrement lié aussi. Enfin, le succès vient aussi de cette formule.
Mais là, c'est sur le skill et c'est là où c'est assez.
Qui rend un jeu accessible.
Oui,
je sais, et...
Après, c'est un point de vue. Hein. C'est pas une vérité générale. Mais c'est une. Enfin, tu vois, je suis pas sûr que les. Enfin, je suis pas très fan des valeurs que sont déployées par Fortnite. Par exemple, moi, j'aime bien que les jeux vidéo parlent aussi un peu de narration de temps en temps.
Ah,
j'aime bien.
Bah, j'ai convaincu.
De gameplay un peu innovant.
Mais laisse-moi espérer que les joueurs de Fortnite vont avoir envie. Ah, derrière, ceux qui arrivent par Fortnite auront peut-être envie de s'ouvrir à d'autres jeux.
Moi aussi, mais honnêtement, j'y crois pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme FIFA, c'est très bien et je suis très content qu'il y ait des bons jeux de foot qui existent aujourd'hui. Les FIFA sont des vrais jeux de qualité, mais je pense pas que ça incite les joueurs de FIFA à aller voir d'autres types de jeux, pareil pour Call of Duty, pareil pour. Mais après, on est sur des jeux très grand public. C'est vrai que moi, je parle en tant que spécialiste de jeux vidéo qui s'y intéresse vraiment à des jeux vidéo pas forcément connus, pas forcément réussis toujours d'ailleurs. Mais voilà, moi, je vois aussi des développeurs qui n'y arrivent pas, qui percent pas et qui voient les Fortnite et qui disent putain, mais les mecs, ils ont rien inventé, ils ont repris des types de jeux, ils ont mélangé entre eux, ils ont mis un style cartoon un peu générique
visuel,
et ça fonctionne. Et du coup, je c'est un vœu pieux, hein, mais j'aimerais aussi que ça puisse déboucher sur de la curiosité. Mais pour Fortnite, j'y crois pas trop, malheureusement. Mais après, c'est très bien que Fortnite fonctionne. Hein,
L'avenir le dira. On va quand même terminer le programme jeux vidéo de cette saison, hein, peut-être par un Battle Royale, du coup, symbole.
Là, c'est symbole.
Non, mais c'est ça, symbole, avec Totally Accurate Battleground. Totally Accurate Battlegrounds, donc un des très nombreux Battle Royale qui sont sortis post-PUBG, post-Fortnite. On en a parlé déjà, s'il s'appelle comment le truc tout pourri dont on avait parlé l'autre jour.
Battle Royale?
Mais des années 80,
ouais, des années 80.
Ah, Battle Royale.
Ouais, il y a.
Désolé, je l'ai déjà oublié.
Il est toujours en ligne.
Là, en ce moment, il y a un Realm Royal qui essaye de s'imposer.
Ah oui, il y a Paladin qui veut faire son
Paladin.
En fait, il y a un Battle Royale de Battle Royale.
C'est exactement.
C'est un enchâssement.
Mais donc là, quand même, on est un peu sur la parodie.
Ouais, on est sur la parodie. Alors,
ils sont tous en mode parodie maintenant.
Non, pas forcément. Il y en a qui sont en cash grab, n'oublie pas. Du coup, donc là, on va parler de Totally Accurate Battlegrounds. Et je pense que déjà, ceux qui connaissent Totally Accurate Battle Simulator vont se dire tiens mais je connais ce début de titre. Et en effet, on parle bien de Landfall. Alors Landfall, c'est un studio suédois qui fait des jeux. Les mecs sont YOLO, hein. Les mecs sont YOLO de ouf. Alors peut-être vous les connaissez pour Battle Stick Fight. Oh, j'ai oublié le nom, bref, c'est pas grave. Ou alors c'est un Cluster Truck. Cluster Truck,
bah
excellent
Cluster
jeu.
Truck.
Moi, j'adore Cluster Truck. Donc, pour ceux qui connaissent pas Cluster Truck, hein, une personne sur des camions. Vous avez un peloton de camions lancé à toute berzingue dans des niveaux et vous devez sauter de camion en camion avec un système physique un peu débile où tout est un peu en pâte à modeler de toute façon dans ces jeux-là. Il y a aussi donc on est dans cette pâte physique, on va dire, qui est propre à Landfall et qui va être réutilisée aussi dans ce Totally Accurate Battlegrounds, donc qui est comme tu l'as dit un Battle Royale et qui va réutiliser, on va dire, l'univers de Totally Accurate Battle Simulator, qui est un jeu de simulation de grandes batailles dans différentes périodes historiques avec des personnages en pâte à modeler et des googly eyes, vous savez, ces yeux là qui bougent un peu partout. Donc c'est parodique, c'est débile, c'est crétin, ça tout bouge un peu, tout est un peu mou, il y a rien de très dur dans ce jeu là et tout est un peu rigolo à regarder parce que tout est un peu ridicule finalement. Sinon, sur le principe, on est sur un Battle Royale. Donc, vous contrôlez un personnage à la première personne, un personnage en pâte à modeler qui bouge un peu n'importe comment. Et on est lancé dans un monde à la Battle Royale en plus petit. Donc, la map est plus petite. La partie se lance à partir de 35 joueurs, alors que la norme pour un Battle Royale, c'est plutôt 100 joueurs. Donc, ça peut monter jusqu'à 45. Ça peut monter, en fait, à partir de 35, il lance le compte à rebours et après, on se débrouille, quoi. Et on est lancé, c'est parti. Donc, on est sur un peloton de camions qui volent au-dessus d'une île. Vous aurez noté la référence à Cluster Truck. Et vous pouvez... vous pouvez vous parachuter. Non, on n'est pas parachuté dans Totally Accurate Battlegrounds. On est projeté comme un boulet de canon dans le monde. On s'écrase dans un volute de fumée. On est repéré à 10 km. On met un petit moment à se relever parce que quand même, on a fait une chute extraordinaire. Et c'est parti pour trouver des armes. Alors, on va chercher des armes, Ah non, j'ai trouvé un costume de banane avant. Bah, je le mets quand même parce que c'est important de porter un costume de banane. Et puis voilà, on trouve...
Pour la discrétion, c'est quoi? C'est top.
On trouve une sulfateuse, on trouve des carquois de flèches, on trouve les armes, on trouve des armes assez classiques qu'on peut trouver dans les PUBG par exemple, hein. Donc j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, on va reconnaître, hein, notamment les formats de balles, hein, sont les mêmes, donc on n'est pas trop perdu à ce niveau-là. Mais sinon, on va aussi trouver des fausses grenades qui font poète quand tu les jettes. On va trouver des grenades prison qui créent des cages.
C'est trop bien, les grenades prison.
Voilà, on va trouver pas mal de trucs finalement, un peu plus ou moins débiles. On va trouver des haches, on va trouver plein de choses, et surtout on peut les trouver un peu partout. On peut des fois se balader en plein champ et tomber sur une arme, alors que dans PUBG il y a des spots d'apparition d'armes qui sont bien précis, et voilà,
on sait. Il faut squatter en général, hein.
Il faut squatter, voilà. Alors là, on peut trouver des choses un petit peu dans la nature, mais quand même plus souvent on va les trouver dans les maisons ou dans les lieux un peu spécifiques, donc un château fort, des maisons empilées n'importe comment les unes sur les autres, et il faut se faufiler dans les fenêtres, dans les machins, pour trouver ce qu'on veut. On est sur une démarche qui est très Battle Royalesque, sauf que comme le monde est un petit peu en pâte à modeler, un peu mou, tout est un peu léger. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas croiser quelqu'un de très fort qu'il va forcément te toucher le premier, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça te laisse ta chance quand toi t'es un peu nul comme moi au PUBG. Et des fois tu veux paniquer, alors tu vois ton personnage, donc ses bras, hein, ils bougent en élastique un petit peu. Tu vas tirer
ça
là.
Ça fait peur côté précision, là, ce que tu nous racontes.
Bah oui, mais
je vois tes mouvements, là c'est un peu flippé niveau. C'est pas précis.
C'est pas précis. Et en plus, non mais c'est très drôle parce que personne n'est précis.
D'accord.
Du coup, c'est un peu.
Mais les joueurs de ce type de production, ils veulent quand même du jeu précis, ils veulent du skill, comme disait Erwan tout à l'heure sur Fortnite.
Eh ben faut pas venir dans.
Faut pas venir là-dedans.
Parce que tout le monde est un petit peu. Genre, quand tu sautes, tu vois le personnage en face de toi qui saute, mais il va s'écraser un peu au sol. Parce qu'on est vraiment. Ouais. C'est vraiment des personnages en pâte à modeler, quoi.
Et c'est pas un peu lassant, du coup, ce côté un peu.
c'est drôle parce que, en fait, des fois, t'as 3-4 personnes qui sautent comme ça, de manière idiote, comme des marionnettes qui auraient perdu leur fil. Et t'es là en train de. Tout le monde essaie de se toucher, et finalement, à un moment donné, t'entends. Ting! Et là, en fait, tu te rends compte, t'as fait un headshot et t'as pas fait exprès. Mais c'est un peu marrant parce que c'est un petit peu pas sérieux, on rigole. On peut passer en mode gangsta. Et là, ton personnage, il fait. Et t'es là, et tu portes ton arme à la gangsta, donc à l'horizontale, et c'est encore plus dur de viser, tu vois. Et si tu portes un costume spécial, t'as plein de costumes disponibles dès le départ. En fait, si tu portes une tenue en jogging, si tu portes le jogging Adidas, c'est le machin Adidas et tout ça, là tu fais plus du poum tchak, tu fais de la techno russe, et ça c'est encore plus cool. Et là tu te mets à tirer, et t'y arrives pas non plus, et tu prends un headshot venu de nulle part. Et puis la zone, les gars, faut parler de la zone, parce que cette zone est quand même incroyable. Donc la zone, habituellement, dans les Fortnite ou dans les PUBG, c'est quoi? Bah, c'est une zone qui serait très si tu passes à l'extérieur, tu perds des points de vie. Si tu passes à l'intérieur, tu perds des points de vie. Mais là, les mecs, ils ont vraiment réfléchi comment on va faire une zone un peu rigolote. Et la zone, mon gars, mais elle est impressionnante. C'est des piliers géants, mais géants, qui se rapprochent et ils font. Et toi, tu le vois au-dessus de ta tête, tu vois l'ombre.
Tu peux pas passer du côté.
Si, tu peux le traverser quand même. C'est des piliers en fait. Donc, différents piliers, tu peux tout à fait passer. Ils passent au-dessus de toi. Et en fait, les piliers, à un moment donné, ils se posent, ils font. Ils tombent très fort, tu les entends partout, tu vois, ça fait une onde de choc hallucinante. Et en fait, après, les piliers, ils se déploient et ça fait une barrière. Et c'est à l'extérieur de la barrière, t'as perdu. Donc il y a des moments vraiment où tu vas courir, tu fais je vais passer la barrière. Et là, la barrière se lève devant toi et t'as perdu. Et c'est vachement drôle. Et à la fin, donc t'as une zone, mais la zone, en fait, contrairement à un PUBG où la zone est toute petite et te fait extrêmement mal, non, là, les murs se rapprochent petit à petit. Donc en fait, ça force les joueurs à se rencontrer. Et à la fin, tu vois donc deux personnages en pâte à modeler. J'ai fait un top 2 comme ça, où les mecs sautent et on essaie de se tirer dessus, mais les murs se rapprochent. On peut plus se mettre à couvert parce que voilà, t'es coincé entre le mur et ta couverture, donc t'as plus intérêt à le faire. Donc voilà, il y a quand même des petites recherches, des petites choses qui sont vraiment sympathiques dans ce Totally Accurate Battleground.
Y a-t-il de la place pour ce genre d'alternative? C'est ça la question. Quand tu en parles comme ça, j'avoue que ça m'inquiète un petit peu.
Il faut savoir
le côté.
En fait, c'est vraiment, franchement, honnêtement, quand je joue à PUBG, je suis stressé, mais de dingue. Je suis vraiment stressé.
Quand
je joue à Totally Accurate Battleground, j'ai fait top 2, j'étais tranquille. Franchement, j'étais détendu. Je faisais. Mais si
il y a des gens sur les serveurs où t'étais tout seul.
Ouais. Non. Il y a encore pas mal de monde qui joue.
Pour savoir, Totally Accurate Battleground, c'est lancé gratuitement pendant 4-5 jours.
Ah, c'est celui dont vous parlez.
Et aujourd'hui,
qui est
il est vendu 4 euros.
5 euros.
5 euros.
Ouais, il est vendu 5 euros.
Alors, c'est bon signe ou mauvais signe, ça?
Non, c'était prévu dès le départ.
Donc il fallait prendre gratuit tout de suite.
En fait, ils ont prévenu, ils ont dit bon, on lance gratuitement. De toute façon, c'est un jeu poisson d'avril. Ils ont dit tout le. Alors, ils l'ont fait un peu en retard.
Est-ce qu'il vaut ces 5 euros aujourd'hui?
Oui, il vaut 5 euros aujourd'hui.
Est-ce qu'il les vaut? Est-ce que tu les.
C'est une question. En fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, à titre personnel, je passe vraiment. Enfin, vraiment des parties rigolotes.
Toi, tu m'as donné envie de voir des vidéos. Je vais regarder à quoi ils ressemblent parce que ça a l'air rigolo. Après.
Et ça se lance très vite parce que comme on n'attend pas 100 joueurs à chaque fois, c'est vraiment très rapide. C'est vraiment des parties qui durent.
C'est gratuit, quoi. C'est ça le
c'est
truc.
Des parties qui durent 10 minutes. Mais au bout d'un moment, les jeux sont 5 euros.
Non, mais le problème, c'est le contexte concurrentiel.
Mais 5 euros pour un jeu blague, finalement qui propose quelque chose.
Moi, c'est le gameplay flottant qui me fait peur. La façon dont tu en parles.
C'est un peu la base du jeu. C'est le contrat.
C'est le contrat. Et dans Totally Accurate Battle Simulator, c'est flottant aussi. Les jeux de Landfall sont flottants. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est un peu leur signature. Ils sont flottants mais précis. Encore une fois, c'est pas du mauvais gameplay. On n'est pas là en train de dire ah, mais c'est pas ça que je voulais faire. Tu sais que tu joues un personnage un peu élastique, mais tout le monde joue un personnage élastique.
Du coup, c'est le côté compétitif que je trouve un peu.
Il n'est pas fait pour être compétitif. Ou alors, s'il l'est, c'est encore une fois, c'est que les gens font des blagues. Hein, encore une fois, quand tu trouves des costumes de banane, enfin, tu sais que tu joues pas un jeu sérieux forcément, quoi, et tout ça. Et du coup, moi, en fait, je peux le conseiller ce jeu-là si vous ne savez pas si vous allez être compatible avec le genre Battle Royale, parce que justement, t'as pas besoin de. Tu me diras, Fortnite est gratuit,
c'est vrai que Fortnite est gratos.
Après, tu vois, il reste pur dans son gameplay dans la mesure où ce n'est que.
Il est cohérent, quoi. Est-ce qu'il est cohérent.
Il reste pur dans son gameplay dans le sens où c'est vraiment on se tire dessus et il n'y a pas la notion de construction, tout ça. Donc, en fait, c'est plutôt genre, vous ne savez pas si vous êtes compatible avec PUBG, peut-être essayer Totally Accurate Battlegrounds. Mais encore une fois, avant de faire ça, vérifiez qu'il reste du monde sur les serveurs. Là, à l'heure actuelle, il y a encore pas mal de monde qui joue. On parle quand même de. Genre, il y avait 5000 joueurs qui étaient connectés en même temps. Donc, les parties se lancent vraiment rapidement. Si vous écoutez ce podcast dans 6 mois après l'enregistrement, vérifiez qu'il y a encore du monde, vérifiez que les serveurs sont encore supportés, ça reste un jeu blague, méfiez-vous, mais voilà, si vous êtes un streamer, ça peut faire rire, hein, franchement, et le jeu reste sérieux, hein. c'est du bon gameplay, c'est bien pensé, le level design est bien pensé aussi, il y a des vraies petites idées qui sont insérées dans le genre qui est maintenant connu du Battle Royale. J'ai rien à dire de mal sur ce jeu, si ce n'est, ça sera pas compétitif.
Non, mais il est cohérent avec le contrat qu'il propose, c'est toujours intéressant, et puis 5 euros, c'est pas une escroquerie. C'est pas une escroquerie. Bon, je crois que c'est fini pour cette saison pour le jeu vidéo.
Eh oui.
C'est fou ça.
Ça passe vite.
Ça y est, on est arrivé au bout de la 11e saison de Silence on Joue. Je me demande s'il y a des podcasts beaucoup plus vieux que nous, en fait.
Je sais qu'il en existe, mais c'est Gameblog le podcast. Non, ça existe encore Gameblog.
Bonne question. Je sais qu'il s'était lancé juste un peu avant nous, à l'époque, un peu en parallèle. Mais voilà. Bon, bref, on est fin prêt déjà. Après quelques vacances, on sera prêt pour se lancer dans une 12e saison qui reste à faire. Pour terminer, on va appeler Stan.
Viens là, Stan.
Il est dans les bureaux à côté. Stan, il arrive. Il casse le plateau des croissants. Stan, c'est le cofondateur et c'est le boss des croissants.
Oui, bonjour.
Merci, Stan.
Merci à Silence on Joue d'être venu dans nos studios, même si on était ravis de les ouvrir et puis ça vous a aidé. Mais on était vraiment très contents.
C'était cool.
J'avais les clés, c'est l'avantage.
Oui, ça permettait aussi à Corentin d'éviter de faire des allers-retours les matins pour enregistrer avec vous. C'était idéal.
Stan, toi, tu es à l'origine un peu des croissants, du grand système d'information. De gestion d'intelligence artificielle.
Dans le milieu, on l'appelle bulle de filtre.
On fait attention à ça, tu le sais bien. Les croissants, hein, on vous rappelle, parce que petit moment promo, mais c'est important aussi de rappeler que les croissants, c'est une petite aventure qu'on a démarrée depuis maintenant janvier, disponible depuis janvier sur lescroissants.fr. Vous avez la possibilité de tester cette app très différente qui vous permet d'avoir un peu un mélange entre de la radio et du podcast, puisqu'on propose chaque matin une matinale à peu près de 20 minutes qui s'adapte à vos goûts. C'est-à-dire une matinale qui est construite
avec une série de news, vous enregistrez beaucoup d'actualités chaque jour, et il y a une sélection qui est construite pour, et en plus c'est raccordé de manière invisible,
magique,
c'est magique.
Fou.
pour créer comme ça un journal personnalisé. Et après, il y a deux chroniques en fonction des goûts des auditeurs. Voilà, chaque... c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà,
oui, parce que chaque matinale est fait pour chaque utilisateur. On a cette chance-là, vraiment. D'ailleurs, on le voit sur la quantité de matinales créées. Vraiment, on est quasiment chaque matinale est unique. Donc, c'est vraiment.
Juste parce que c'est vrai que avec Corentin, on avait déjà parlé des croissants dans Silence on joue, hein, quand t'étais venu une fois.
Oui, c'est vrai.
Et puis on en a reparlé un peu quand on est arrivé, mais on a jamais écouté dans Silence on joue à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a un extrait pour
Absolument.
Voilà.
Bonjour Erwan. C'est bon, vous n'avez pas fondu ce week-end ? Pour vous remettre, les croissants sont là. Ici Corentin Benoît Gonin, nous sommes le lundi 2 juillet 2018 et voici le sommaire. Tout d'abord le journal, puis on jettera un œil à la météo. Vous avez envie de vivre le frisson des sports extrêmes à deux roues sans avoir à sortir de chez vous dans un jeu garanti sans prise de tête ? Pierre-Alexandre Rouillon de Gamekult a la solution et elle s'appelle Descenders. Faites-lui confiance, la légende raconte que cet homme au goût sûr n'aime ni sortir ni la nature. Les professionnels des télécoms cherchent à nous vendre la consolidation télécom. Dit comme ça, ça a l'air drôlement chouette. Sauf que Geoffroy Husson de Tom's Guide nous apprendra qu'il s'agit simplement d'un retour à trois opérateurs. Ah oui, moins chouette d'un coup. Mais tout de suite, on passe au journal présenté par Alice Patine. Bonjour Alice.
Bonjour Corentin, bonjour à tous.
Donc là, c'était le sommaire. Donc c'est quand...
Quand on démarre sa journée, en fait, on a le plus petit démarrage de l'émission qui est justement adapté à chaque auditeur. Et donc là, j'ai mis forcément une version avec un peu de jeux vidéo parce qu'on a quand même Pierre-Alexandre Rouillon, Pippo Mantis, que certains connaissent sans doute si vous connaissez un peu le jeu vidéo.
Qui est venu quelques fois dans Silence on joue et Griffou, Geoffroy, qui est passé par Écran.fr aussi. Donc,
stagiaire chez Écran.fr à l'époque.
Ouais. C'est un petit monde, un petit peu.
Mais donc voilà, c'est super chouette. L'idée, c'est vraiment qu'on s'adapte à chaque auditeur. Et donc voilà, et donc on fait ça du lundi au vendredi, donc vraiment tous les matins on a quelque chose à découvrir. Et je suis venu aussi avec un petit cadeau pour en partant, parce qu'évidemment on aime beaucoup aussi le public de Silence on joue. On a un peu regardé vos retours sur le forum et tout, donc ça nous a un peu aidé. Et voilà, donc on vient avec une petite promo, puisque si vous venez sur lescroissants.fr/silence, comme Silence on joue, /silence, et ben vous avez accès à le premier mois seulement à 1,20€, donc c'est vraiment quasiment rien. Vous pouvez tester, c'est moins d'une pièce de 2€ comme dirait l'autre, donc voilà, il y a quand même de quoi tester pour les croissants pendant un mois.
Et donc quand même, vous existez depuis 6 mois, on sait que c'est un peu compliqué les débuts d'une start-up et ce genre de choses. Vous êtes là pour vous êtes là pour durer maintenant.
Alors, on essaie de faire ce qu'il faut pour durer. On a déjà plus de 1000 abonnés, donc ça c'est cool. 1000 abonnés payants, c'est super chouette, mais évidemment chaque abonné compte, donc n'hésitez pas à essayer. Vraiment, c'est pour ça qu'on insiste un peu, parce que voilà, un média ça se crée aussi en ayant son public, ses auditeurs.
Bah oui.
Et puis là on essaie de grandir, on prend à peine 2 semaines de vacances durant cet été. L'idée c'est vraiment d'être là pour vous convaincre.
Vous êtes des grands malades.
Donc voilà, c'est vraiment l'esprit.
On va perdre Corentin.
Et on a de la chance, justement, j'ai de la chance d'avoir Corentin à mes côtés.
Je fais un sub là.
Justement, Corentin qui vous réveille et qui vous réveille chaque matin et qui est à nos côtés, c'est vraiment génial. Donc voilà, les croissants.
Et encore merci, vous avez sauvé cette moitié de saison de Silence on joue, cette fin de saison de Silence on joue aux croissants. On vous remerciera jamais assez.
Et donc n'oubliez pas la promo www.lescroissants.fr/silence.
Voilà, donc formidable. Si vous avez envie de retrouver Corentin Benoît Cohen.
Ou Cocobé,
dans vos oreilles tous les matins, c'est la solution. En tout cas, voilà, c'était pas prévu, c'était pas un deal. On n'avait pas dealé au début. Viens, tu feras ta pub à la fin, mais je trouve ça hyper naturel.
Oui, promis, si tu ramènes 25 abonnés, je t'offre un bug.
Et donc voilà, merci encore. Et puis quand même, la question rituelle à laquelle, mes chers chroniqueurs, vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas. Ah mais non, on va faire d'abord le jeu des vacances, au fait, rapidement.
Ah oui, c'est l'émission qui s'arrête pas.
Non mais un jeu rapide, sans vous amener quoi en vacances?
Alors moi je vais partir juste quelques jours comme ça, donc je prends évidemment ma Switch, c'est la console idéale pour ça. Je vais prendre All Boy, que j'ai découvert grâce à la Switch, qui permet aussi de découvrir des jeux qu'on a pu louper sur PC ou autre, et je suis tombé amoureux de ce jeu qui est fabuleux. Vous en aviez parlé, je crois, que Mathieu de Gamekult à l'époque sur Silence on joue, et il est magnifique, ce jeu. Je suis vraiment tombé amoureux et je vais emmener ça, et puis Flashback aussi qui vient de ressortir, donc je vais me refaire Flashback comme à la grande époque, et Another World qui arrive dans quelques jours, voilà.
Corentin.
Céleste, faut jouer à Céleste.
Encore
alors moi je vais y retourner pour les fraises d'or là.
Oh non.
Si, si.
Mais non, mais non, tu peux pas.
Si, si,
c'est
si,
le
si,
truc
si,
où il
si.
Faut pas mourir et tout.
Non, c'est le truc où il faut pas mourir, mais bon, c'est pour les gens de manière générale. Si vous n'avez pas fait Céleste, faites Céleste, faites Céleste. Je
ouais,
sais pas.
Non, c'est vrai.
Comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai l'impression que ce jeu est sorti il y a 15 ans tellement il m'a marqué. J'ai l'impression que c'est un jeu de mon enfance tellement ce jeu m'a marqué. J'ai envie de le refaire, j'ai envie de continuer, donc je vais m'attaquer aux fraises d'or. Là, je vais donc le troisième monde, je crois, sur les fraises d'or, donc je vais devoir finir le monde sans mourir. Et puis voilà.
Moi, tu m'as convaincu. Je vais prendre Céleste, donc. Non, mais c'est vrai, sincèrement, en plus.
Tu n'as pas fait, toi?
Non, mais j'ai pas fini, en fait. Je vais reprendre Céleste et je vais quand même amener Cultist Simulator dont j'ai parlé la semaine dernière parce que j'ai eu l'impression de juste l'effleurer comme ça en y jouant quelques heures. Donc voilà, j'ai envie d'aller plus avant. Et donc je reviens sur la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper avant de partir en vacances. Et je vous laisse et je vous embête plus, promis, cher chroniqueur.
Je vous embête pas.
Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Alors moi, je suis allé au cinéma, je suis allé voir un film qui s'appelle Sans un bruit de John Krasinski.
Film d'horreur.
Alors, horreur, donc le pitch des créatures, on ne sait pas trop d'où elles viennent, réagissent au bruit, donc il ne faut plus du tout faire de bruit, parce qu'au moindre bruit, elles nous attrapent, elles nous tuent. Donc on suit
une
famille qui est en stress, parce que je crois que c'est quelques mois après le début de cet apocalypse avec ces monstres qui sont arrivés, il leur arrive plein de trucs très désagréables. Alors, double effet qui se coule sur ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film en lui-même, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je trouve qu'il arrive vraiment à créer une tension. Il y a des moments de stress vraiment ultimes qui prennent. Il y a vraiment des moments d'anthologie. Je ne veux pas spoiler, mais il y a un accouchement, un moment où vraiment on se dit, mais c'est vraiment, ils arrivent vraiment à créer un truc très stressant. Par contre, une fois, vraiment, le film te tient en haleine. Il ne dure pas très longtemps. La bonne durée pour moi, pour un film d'horreur, c'est 1h30. C'est-à-dire qu'il ne part pas dans des développements. Par contre, une fois que tu sors de la salle, t'as un petit arrière-goût pas très... Il y a plein de trucs qui vont pas. Une fois que tu sors, en fait, il faut débloquer son cerveau, faut le couper et puis sortir, penser à autre chose. Le problème, c'est quand tu sors, des fois, t'y repenses.
Ouais.
Et il y a plein d'incohérences. Il y a un lore qui n'est pas développé, ce qui est dommage parce qu'il arrive à créer des sensations pendant le film. Il n'y a aucune volonté de créer vraiment un univers. Ces créatures, je vais pas spoiler, mais on n'en sait pas beaucoup, on n'en saura pas énormément. Et puis il y a des vraies incohérences, il y a des choses qui sur la fin m'ont vraiment agacé. Et c'est dommage parce qu'on se dit, il y avait un bon concept, il y a des vrais moments de fulgurance, de ressenti dans la salle, vraiment, c'est palpable. Il y a vraiment un stress.
Tu me dis, monstre qui réagissent au bruit plus accouchement, je suis vendu presque.
Par contre, vraiment, je te dis, il y a des non-sens quand tu ressors. Peut-être, il y a le truc qui te trotte dans la tête et pas en bon. C'est-à-dire qu'un film derrière,
il a fait ça ?
Et tu te dis, mais pourquoi personne n'avait fait ça avant ? Et puis, mais d'où ils viennent ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et encore une fois, il y a un manque de développement du lore, monde autour et des trucs qui vraiment te prennent la tête. En revanche, il y a une suite qui est déjà en développement, a priori. Bon, à voir.
J'aime bien ces films avec reste... au concept.
Ah oui, concept.
Dans ce niveau-là, ça me rappelle un peu Pitch Black où il devait rester. Si t'étais dans le noir, t'étais mort.
Que Pitch Black, il arrivait à créer quelque chose de finalement cohérent.
Il y avait une cohérence.
Exceptionnel.
Pitch Black, j'adore.
Et là, ce que j'ai pas eu en sortant, moi, vraiment, il y a des trucs, je me disais, mais non, pas ça, comment. Enfin, voilà. Donc, vraiment, un pur film sensitif à voir pour ça, pour l'expérience d'une heure et demie, mais pas trop y réfléchir après, je pense.
C'est un conseil bizarre. Corentin.
Alors, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, mais vous allez voir, ça se termine mal. Alors, en fait, ça s'appelle Katana Gatari. C'est un animé de 2010, donc ça date un peu, qui est tiré d'un light novel de Nishio Ishin. C'est fait par le studio White Fox. Alors, pour ceux qui connaissent, ils ont fait Steins Gate, qui est un animé très connu, et un visual novel aussi très connu, donc c'est plutôt chouette pour ceux qui connaissent. C'est plutôt joli et sympa, ça raconte l'histoire, donc ça se passe dans un Japon féodal, hein, donc on est sur des samouraïs, des ninjas et tout ce genre de choses, hein, des shoguns. Donc dans le lore, c'est le forgeron Shikizaki Kiki qui a forgé 1000 sabres pour perfectionner son art. Seuls les 12 derniers étaient des sabres parfaits, donc il y a 12 sabres légendaires qui se trimballent dans ce monde-là, et donc on a Togame qui est la stratège du shogun qui est chargée de les récupérer et pour cela elle va faire appel à Yasuri. En fait, lui, sa particularité, c'est qu'il maîtrise l'art du Kyoto-ryu. Le Kyoto-ryu, c'est l'art d'être un sabre soi-même, de ne pas avoir de sabre, de se battre à main nue et de briser les sabres, parce que tous les autres qui manient le sabre, on peut pas les engager puisqu'ils ont trop envie de les récupérer pour eux, les sabres. Donc on va chercher le sabreur sans sabre, qui est en l'occurrence assez fort. Et alors, cet animé a une particularité, c'est que c'est 12 épisodes pour 12 sabres, et il a été diffusé un par mois. au Japon, pour chaque mois de l'année finalement. Et c'est assez fun. Et en effet, il y a une ambiance à chaque fois qui est un peu particulière à chaque épisode. Et c'est assez long. Je pense que c'est dû à cette diffusion hein, très très espacée. Ça dure 50 minutes, ce qui est assez rare pour un animé. Les animés d'habitude, c'est plutôt 20-25 minutes, grand max. Et là, on est sur des épisodes assez longs. Alors, c'est assez calme aussi. Ça papote beaucoup. On a des duels psychologiques souvent. Genre, non, je vais te battre car je maîtrise ça. Ah non, c'est moi qui vais te battre. Il parle beaucoup et à la fin, on a un combat rapide. En fait, on est presque dans du western de samouraï, hein, presque. Et moi, j'aime beaucoup notamment le concept de chaque épée qui est assez différent. Il y a un sabre, sa particularité, c'est qu'il y a 1000 sabres. Donc en fait, le secret du sabre, c'est qu'il y a 1000 personnes autour de toi qui sont prêts à te zigouiller, en fait. Il y a d'autres sabres, c'est une armure, il y a des sabres. Voilà, donc il y a plein de petites particularités pour chaque sabre. Il y a des libertés qui sont faites et c'est vraiment intéressant à faire, surtout que les dialogues sont assez drôles. Il y a un chara design qui est assez doux, assez. Moi, j'aime beaucoup. On est presque dans du quelque chose de kawaii presque, mais pas vraiment, ça reste sérieux. C'est-à-dire que les personnages restent assez massifs, musclés et tout ça, mais le trait est fin, lisse, c'est plutôt chouette. Et là, on arrive sur la mauvaise nouvelle. Donc, j'étais en plein milieu de cette saison qui était sur Netflix. Donc, 5e épisode. Je m'apprête à regarder le 6e. Donc, je suis en plein milieu de la saison 1. Et là, la série est retirée de Netflix. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. Je regarde une série sur Netflix et elle est retirée alors que je suis en train de la regarder. Je vous cache pas que j'ai un peu les foies là. Mais
tu pourrais mettre un petit message en fait. Alors, attention.
J'ai envoyé un message à Netflix France. J'ai fait aucune chance que je veux le voir venir de sitôt, j'imagine. Parce que là, j'avoue quand même que j'ai joué de malchance, les loulous. Le machin, il date de 2010. Je m'attendais à ce qu'il reste un petit peu. Bah non, je me suis fait avoir. Donc je vais devoir trouver d'autres moyens de le regarder. D'autant que j'ai pas l'impression qu'il soit sur les autres plateformes d'animé, genre Crunchyroll, Wakanim. Faut que j'aille vérifier tout ça. Mais voilà, je suis un petit peu. Je suis Marie. Hein,
ah bon, oui. Tu vas pas l'emmener en vacances.
Non, voilà. Mais je conseille quand même pour ceux qui aiment ce style-là, ça pourra rappeler des trucs comme Samurai Champloo à ceux qui avaient aimé à l'époque. C'est un peu moins hip-hop, un peu moins rythmé que Samurai Champloo. On est plus dans de la contemplation, tout ça. Mais moi, j'ai vraiment apprécié et je recommande à tous ceux qui aiment bien les animés qui vont un peu plus lentement. Voilà.
D'accord. Et ben moi, j'ai lu de mon côté Éloge des mauvaises herbes. Non, rien que le titre, là encore, hein, c'est pas Croutou, mais quand même. Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD. Alors, c'est un recueil de textes coordonné par Jade Lingard. Donc c'est un recueil de textes donc où on trouve des noms connus quand même comme Alain Damasio, comme Virginie Despentes, comme David Graber et d'autres. Voilà, c'est juste une compilation de textes de gens qui parlent de la ZAD, donc de Notre-Dame-des-Landes, qui a fait l'actualité ces derniers mois hein, avec une évacuation assez scandaleuse quand même. Et c'est des textes qui parlent de cette ZAD par des gens qui soit y sont allés, soit ont des contacts, soit ont entendu parler, enfin soit ont ressenti aussi quelque chose pendant cette évacuation. Et donc voilà, il y a des très beaux textes, il y a une nouvelle inédite d'Alain Damasio qui se passe dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2045 avec un style très très Damasio, et il y a des textes vraiment intéressants. On retrouve aussi Amandine Gay, une afroféministe qui a un texte assez percutant aussi sur la ZAD. Bref, voilà un beau recueil de nouvelles, l'éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Le titre est chouette, en tout cas.
N'est-ce pas? Voilà, donc cette 11e saison se termine. J'ai toujours du mal à terminer les saisons. Hein. Je continuerai à parler, à faire un monologue presque à comment, Edouard Baird.
Et vous partez-vous en vacances?
Voilà, bon, on va éviter de tomber là-dedans, du coup, et on va se dire à la saison prochaine. Donc, on sera là sans doute au mois de septembre. D'ici là, merci à tous les deux hein, d'avoir fait cette fin de saison. Dans Silence on joue et puis bah on se retrouve au mois de septembre pour la 12e saison de Silence on joue. Ciao.